Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huigban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jésuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe?
Excellent Père de gloire.
Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur parce que nous sommes encore réunis à tes pieds. Merci Seigneur parce qu'ensemble, en bonne santé, en paix envers et contre toi, Seigneur, nous sommes encore à tes pieds. Ensemble pour t'invoquer, ensemble pour te prier, ensemble pour te demander de nous faire grandir dans ta sagesse, Seigneur. Nous savons que rien n'est possible sans ta sagesse. Nous savons que la sagesse commence par le fait de te craindre. Nous te prions donc d'être ici le bienvenu, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur, sois vraiment Seigneur. Sois l'alpha et l'oméga de cette séance, Seigneur. Conduis-la toi-même. Inspire tout ce qui sera dit. Dispose le cœur pour les entendre. Écris ce qui sera entendu, qui viendra de toi sur les tables de nos cœurs de manière indélébile. Et comme c'est toi qui donnes le vouloir et le pouvoir, donne-nous aussi, Seigneur, la grâce de pouvoir le mettre en application pour être béni. Qu'il te plaise, Seigneur, de toucher encore nos vies ce soir. Qu'il te plaise, Seigneur, de nous édifier, Seigneur. Qu'il te plaise de nous convaincre de péché. Qu'il te plaise de sanctifier nos vies, de sanctifier nos activités, de sanctifier nos familles, de sanctifier nos destinées ce soir. Que le sang de l'agneau vienne nous couvrir, Seigneur. Qui vient nous envelopper, nous purifier, nous blanchir, effacer tous nos péchés pour lesquels nous te demandons, Seigneur, pardon. Merci, Seigneur, parce que nous te confions ce pays, nous te confions ces autorités, nous te confions chacune de nos vies, nous te confions ces moments que nous allons passer ensemble. Qu'il te plaise de prendre le contrôle, de nous guider, de nous donner la grâce de glorifier ton nom, d'être tes témoins par ce qui sera encore ici. Sois béni, Seigneur, sois magnifié, et merci parce que tu nous accompagnes, parce que tu nous conduis, parce qu'ensemble tu nous fais grandir dans ta sagesse. Sois béni au nom de Christ Jésus. Nous avons prié. Amen. Alors, comment allez-vous? Est-ce qu'on a des questions par rapport à ce qu'on a vu hier? Oui, allons-y.
J'ai une préoccupation. Au niveau des études théologiques, je ne l'ai pas encore fait. Je ne sais pas ce que les gens font de ce côté-là, mais on soutient les mémoires de licence, de maîtrise et la thèse. Qu'est-ce qui se fait de ce côté-là? Est-ce que ce n'est pas thèse, antithèse et puis synthèse là, c'est la même politique qui est utilisée dans ce sens. Je ne sais pas, je n'en sais rien, mais je voulais demander si vous avez quelque chose là-dessus, vous pouvez bien nous éclaircir à ce sujet-là.
Alors, je ne pense pas, moi non plus je n'en ai pas fait de cours de théologie ou d'école biblique, mais je ne pense pas qu'ils puissent se permettre là-bas de faire de la thèse, de l'antithèse et de la synthèse. Je ne pense pas. Alors, ça m'étonnerait. Parce qu'il faudrait... Je crois quand même que les écoles théologiques, les écoles, encore que, école théologique et école biblique, ce n'est pas tout à fait la même chose. La théologie, c'est une science où ils ne sont pas loin des scientifiques dans les errements qui se permettent. Parce qu'après, c'est de la philosophie sur Dieu. Mais quand on parle d'une école biblique, on parle d'un enseignement qui a la Bible comme fondement, qui a la Bible pour référentiel. Je ne pense pas qu'une école biblique puisse faire la thèse et dire l'antithèse. L'antithèse serait quoi? Non, je ne pense pas. Je n'ai jamais été dans une école publique, c'est parce que j'y aille un jour, mais je ne pense vraiment pas qu'il puisse se permettre ça là-bas. Donc, je ne crois pas du tout. Par contre, ce qu'on peut faire avec la Bible, je ne sais pas s'ils le font dans les écoles bibliques une fois encore, puisque moi, je n'y ai pas été, c'est que, comme je dis toujours, mon mot préféré dans la Bible, c'est le mot discernement. C'est-à-dire que s'il est vrai qu'il n'y a pas de vérité contradictoire dans la Bible, l'ignorance peut vous donner l'impression que deux choses sont contradictoires. Mais dès que vous découvrez la Bible dans son ensemble, vous comprenez le lien qui est entre les deux, vous voyez que ce n'est pas contradictoire. Je donne un exemple. La Bible nous dit, donc Dieu nous dit, qu'il est parfaitement amour, qu'il pardonne 7 fois 77 fois, c'est-à-dire quasiment à l'infini. Qu'il est tellement amour qu'il n'y a quasiment rien qu'il ne peut pas faire pour nous par amour. Ça, c'est vrai. C'est une vérité, elle est indiscutable dans la Bible. Mais la même Bible nous dit, et Dieu nous dit, qu'il est justice, 3 fois saint, qu'il ne peut en aucun cas tolérer le péché. Et que donc, si vous semez quelque chose, vous le récoltez forcément. Que quand il y a péché, il y a forcément mort. Et parfois, il est très prompt à frapper. Surtout dans l'Ancien Testament. Donc, pris comme ça à première vue, on peut se dire, mais il y a contradiction. Quel est ce Dieu qui aime tant que ça, qui se définit comme l'amour parfait, et qui est quand même capable de dire, mais il y a péché, il y a forcément mort, ça ne se négocie pas. C'est contradictoire. Mais ce n'est pas contradictoire quand vous connaissez la Bible dans son ensemble. Parce que vous verrez bien que Dieu n'est pas une chose ou l'autre. Il n'est pas une chose maintenant pour être l'autre après. Puisqu'il ne change pas, on dit qu'il n'y a pas d'ombre de variation en Dieu. Dieu ne change pas selon les jours, selon les moments, selon les humeurs. Donc tout ce que Dieu est, il est totalement et intégralement tout le temps. C'est-à-dire pendant qu'il est en train d'être amour, il est en train d'être justice. Les hommes ne sont pas comme ça. L'homme agit tantôt, par exemple, pour la justice, tantôt pour l'amour, tantôt pour la colère. C'est-à-dire l'homme varie. Dieu ne varie pas. Il est. C'est pour ça à Moïse, sa définition était « je suis ». C'est très clair. Ce n'est pas « je serai », ce n'est pas « j'ai été », ce n'est pas « je suis en train d'être ». Je suis. Il ne change pas. Donc, en même temps que Dieu est amour, il est en même temps justice. Mais si vous allez plus loin dans la connaissance de la Bible, vous verrez déjà que la justice de Dieu, ce n'est pas la justice des hommes. Chez les hommes, comme je l'ai déjà dit ici, juger quelque chose, c'est mettre deux choses ensemble et dire « celle-là est vraie, celle-là est fausse. Celle-là est bonne, celle-là est mauvaise. » Dieu ne juge jamais comme ça. En tout cas, il ne juge jamais les hommes comme ça. Dieu peut juger dans le sens de prendre deux vérités, de dire ça c'est faux, ça c'est vil, ça c'est vrai. Mais quand Dieu juge les hommes, il ne les juge jamais en termes de toi tu es bon, toi tu es mauvaise. Parce que tous sont péchés, tous sont pécheurs. Donc, Dieu s'il devait avoir pour méthode de jugement, de dire toi tu es bon, toi tu es mauvais, il ne trouverait jamais de gens auxquels appliquer le jugement de bon. Donc, quand vous regardez bien, Dieu ne juge pas les gens comme nous les hommes, nous les jugeons, en leur donnant une classification absolue et définitive. Dieu juge ce que font les hommes. Quand l'homme fait quelque chose qui est conforme à la vérité, Dieu lui dit bravo, ça c'est conforme à la vérité, Dieu le récompense pour avoir été conforme en ça à la vérité. Si le même homme fait quelque chose qui est contraire à la vérité, Dieu le jugera sur cette autre chose en lui disant, qui que tu sois, ça c'est pas la vérité et je ne l'accepte pas. Soit il te pardonnera, soit sur les circonstances, il te punira. Mais Dieu ne traite pas les gens pour qui ils sont. Parce que pour Dieu, nous sommes tous des pécheurs. Menteurs, voleurs, tueurs, pour Dieu, c'est pareil. Nous sommes tous des pécheurs. C'est pour ça que la bêtise, le péché véniel, mignon, péché, péché grand, péché si, c'est des foutaises. Un pécheur, c'est un pécheur. D'accord? Donc, quand Dieu veut juger, il ne se fatigue pas à trouver qui est bon, qui est mauvais, il sait qu'il n'y a pas de bon. Et même les gens qui sont bons en Dieu, quand vous regardez bien ce que Dieu dit, n'ont aucun mérite. C'est une grâce que d'être bon. Quand vous regardez Pharaon, Dieu dit qu'il endurcit son cœur pour s'entêter dans la méchanceté. Si on doit bien regarder, est-ce que c'est entièrement de la faute du gars? Dieu sait, écoute, est-ce que Dieu peut vouloir endurcir ton cœur va pas dur? Ça fait partie, comme je dis, personne ne sait tout. Ça fait partie des choses pour lesquelles je pose encore des questions à Dieu. On dit, mais Seigneur, pourquoi c'est toi qui endurcis son cœur et tu le frappes? La seule réponse que j'ai pour le moment, là encore, je ne sais pas si j'ai raison, mais c'est la seule chose qui me vient chaque fois que j'y pense, c'est que Dieu n'endurcit pas le cœur de n'importe qui. Il endurcit le cœur de quelqu'un qui est déjà sur le chemin de la perdition. Et Dieu, sur le chemin de la perdition, et Dieu, sachant toutes choses par avance, sait qu'avec ou sans ça, il sera perdu, il fera des bêtises. Donc Dieu l'accable pour aggraver ses circonstances afin de donner leçon au monde.
Mais Dieu ne prendrait pas quelqu'un qui a le cœur de David pour lui faire faire des bêtises. Il y a des gens dans la Bible dit que si tu énerves Dieu en griffe, si tu pêches, il va permettre que sa sagesse te quitte. Si sa sagesse te quitte, tu vas te mettre à faire des péchés, tu vas te mettre à faire des bêtises. Donc, quand vous regardez bien la parole de Dieu, plaire à Dieu est un mérite, mais en réalité est une grâce. Le mérite semble-t-il être de vouloir plaire à Dieu, mais la capacité de plaire à Dieu n'est pas un mérite, c'est une grâce. La seule chose que l'homme peut choisir, c'est de vouloir plaire à Dieu, de vouloir suivre Dieu, même là encore. Mais aucun homme n'a la capacité par lui-même de plaire à Dieu. Partant de là, c'est difficile de juger les gens en disant bon, mauvais. Quand vous prenez un gars comme Paul, c'était un tueur de chrétiens. Quand Dieu s'est décidé à le rencontrer, il a changé. On peut dire, mais les autres qui n'ont pas changé, pourquoi Dieu n'a pas rencontré Hérode? Pourquoi il n'a pas rencontré d'autres tyrans? Je ne pense pas que Dieu puisse les rencontrer comme il a rencontré Paul et qu'il résiste. Évidemment, certains sont tellement téméraires qu'ils résistent. Mais on peut dire que certaines personnes qui ont été pécheurs jusqu'à leur mort diront, oui, mais toi, il t'a rencontré parce que moi, il est venu me rencontrer. Dieu dira peut-être qu'il a organisé les temps, les circonstances pour le rencontrer, qu'il est à la porte, qu'il frappe, qu'ils n'ont pas entendu. Mais le fait est là que ce n'est pas si simple que ça. Donc, je disais que quand Dieu veut juger, il va prendre des faits, il va prendre des mots, il va prendre donc des paroles, il va prendre des pensées. Dieu ne juge pas que les actions. C'est une chose qu'il faut apprendre. Il juge en commençant par les pensées. Une pensée adultère, Jésus dit, c'est de l'adultère. Ce n'est pas une pensée d'adultère. Une pensée adultère est de l'adultère. Une pensée, il dit, si tu dis imbécile à ton frère, tu es un criminel. Le fait de penser déjà que ton frère est mauvais, Jésus le classe dans le même registre que le fait d'aller tuer ton frère. On va peut-être revenir là-dessus. Il faut comprendre que c'est des vérités puissantes pour l'homme. Le fait de penser à l'adultère, ce n'est pas avoir commis l'adultère. Mais Dieu dit que si tu as pensé à l'adultère, tu as déjà commis l'adultère. Et quand vous regardez, c'est vrai. Il est impossible de passer son temps à penser à l'adultère et de ne pas y tomber tôt ou tard. C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Quand vous pensez à l'adultère, vous semez dans votre esprit, donc dans votre destinée, des graines d'adultère. Que Satan va arroser soigneusement. Ça va germer, ça va fleurir. Et les fruits seront là. Le jour où vous tombez dans l'adultère, ce n'est pas le jour où vous avez conçu l'adultère. C'est simplement le jour où quelqu'un a cueilli les fruits qui avaient mûri. Vous passez tout votre temps à regarder la femme de quelqu'un d'autre, une autre femme, ou le mari de quelqu'un. Vous fantasmez, vous fantasmez, vous fantasmez. Mais vous ne savez pas que, spirituellement, vous êtes en train d'accomplir la chose. Au moment où ça se passe, c'était verrouillé depuis longtemps dans la quatrième dimension. De la même manière que quand on croit quelque chose, cela s'accomplit. Fantasmer sur la femme de quelqu'un d'autre, c'est quoi? La règle qui fait que ce qu'on croit avec la foi s'accomplit et que ce qu'on craint avec la peur s'accomplit, fait que ce que tu conçois dans ton esprit s'accomplit. L'esprit est comme un incubateur de réalité. Dieu a donné à l'homme, c'est ce que les animaux n'ont pas, la capacité dans leur esprit de penser des choses, de les vouloir et de les voir se réaliser. C'est ça le pouvoir de création de Dieu qu'il a partiellement délégué à l'homme. Un animal ne peut pas rêver d'un immeuble et le concevoir. L'homme a la capacité, avant de créer les choses, de les imaginer, de les créer en esprit. C'est une partie de la capacité divine. On dit Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. L'homme a cette capacité. Mais l'homme a développé la capacité de penser les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, mais il n'a pas réalisé que ce n'est que la première partie d'un processus plus puissant, d'appeler aussi les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc les hommes pensent aux choses comme si ce n'était qu'un jeu. En oubliant que penser à quelque chose, c'est créer la chose. On ne peut pas mettre un œuf dans un incubateur et être surpris que le 41e jour, il y a un poussin. Un sage te dira, dès que tu as déjà mis l'œuf dans l'incubateur, tu as déjà un poussin, à moins que tu enlèves l'œuf de là. Mais tu ne peux pas mettre l'œuf dans un incubateur et prier pour que tu viennes trouver ton œuf là dans 3 mois. Dans 3 mois, quand tu viendras, il n'y aura plus d'œuf, il y aura un poussin. Si tu ne veux pas que l'œuf devienne un poussin, tu ne le mets pas dans l'incubateur. Les hommes passent leur temps à mettre dans leur incubateur plein de choses qu'ils ne veulent pas voir éclore. Et c'est pour ça, quand vous regardez bien, Jésus est aussi intransigeant, aussi sévère sur le jugement du cœur et de la pensée que sur le jugement des actes. Parce que le péché ne naît pas dans l'action. L'action ne fait que révéler un péché qui est né dans le cœur. Pour éviter de pécher, il ne faut pas s'attaquer à ses actions. Il faut s'attaquer à ses pensées. Si vous n'êtes pas capable de vaincre une pensée, vous ne pouvez pas résister à l'action. Il est quand même plus facile de résister à une pensée que de résister à une action. Donc, celui qui ne peut pas, par exemple, réfréner ses pulsions de pornographie, par exemple, ne peut pas résister à une femme, c'est faux. Il ne faut pas mentir à quelqu'un. Mais souvent, nous faisons, j'arrive, nous faisons comme si nos pensées sont un endroit qui ne nous appartient pas. Comment je vais faire si la pensée arrive dans ma tête? Non, nous avons le contrôle sur nos pensées. Nous pouvons décider ce que nous voulons penser. C'est-à-dire que des fois, effectivement, quand vous êtes habitué, Satan vous envoie tout le temps de mauvaises pensées. Mais on doit arriver à un moment où on est maître de sa pensée. On dit ça, ça ne rentre pas, ça, ça sort. On commence à penser à quelque chose, on dit je te vide, fous le camp, je ne veux pas penser à ça. Et au bout d'un certain temps, on est maître de ce qu'on pense et de ce qu'on ne pense pas. Rien n'oblige l'homme à subir ses pensées. Dieu nous dit de choisir de penser au bien plutôt qu'au mal. De choisir. Dieu ne peut pas dire de choisir ce qui n'est pas sous votre contrôle. Donc, vous devez apprendre, c'est l'une des grandes règles de la sagesse, que vous avez le pouvoir de choisir ce qui se passe dans votre tête. Quand on dit que si tu doutes, tu n'auras rien, Dieu ne peut pas nous juger pour quelque chose qui ne dépend pas de nous. Donc, vous devez choisir de ne pas douter. C'est difficile, peut-être, quand on n'est pas habitué, mais cela doit faire partie des choses pour lesquelles vous vous efforcez, mais surtout des choses que vous demandez à Dieu de vous donner. Il y a une question là-bas.
En fait, c'est pas une question, c'est pour enchérir un peu ce que vous êtes en train de dire. Parce qu'il y a la science qui a démontré, par des expériences, que la pensée est égale à l'action. Ils ont pris, par exemple, quelqu'un qui avait été amputé des deux jambes, où on lui a placé des appareils pour voir l'émission des ondes de son cerveau, de son battement de cœur, quand il est en train de penser qu'il est en train de faire une course de fond, par exemple. Et le résultat que cela a donné est le même résultat du test qu'on a fait à quelqu'un qui avait les deux pieds, un coureur, un sportif normal. Ce qui prouve que la pensée, quand nous imaginons, ça génère en même temps, c'est égal à l'action.
Et vous savez, moi ce que j'ai découvert et qui me fortifie beaucoup, c'est que nous les hommes, nous avons été programmés pour n'accepter, et moi j'en fais partie, que ce que nous avons compris. Et donc, dès que nous lisons ou nous découvrons une vérité biblique, nous avons tendance à voir si c'est logique. Si c'est logique, on y croit. Si c'est pas logique, on n'y croit pas. C'est une erreur. Parce que par définition, nous sommes en train donc de partir de la logique que nous connaissons, c'est-à-dire du mode de fonctionnement de Satan, pour juger si ce qui vient de Dieu est vraisemblable ou pas. Si vous partez d'un mauvais moule pour juger toute brique, vous avez une moule tordue. Vous la prenez comme référentiel. On vous montre une brique, vous voulez voir si la brique est bonne. En regardant si elle a pu sortir de ce moule-là, vous allez rejeter toutes les bonnes briques et n'acheter que les mauvaises briques. D'accord? Si on vous a par exemple une moule doit faire 10 cm par exemple de largeur. Quelqu'un, un bandit, vous avez commandé un moule, il vous a fait un moule de 3 cm de largeur. Vous ne savez rien. Vous dites que vous voulez gagner du temps au lieu de faire des briques, vous allez acheter des briques toutes faites. Vous baladez sur le marché, vous cherchez des briques qui font 3 cm de largeur. Vous n'en verrez aucun. Si vous envoyez quelque part faire des briques d'un bandit, votre maison va s'écrouler. Vous risquez de n'acheter que des mauvaises briques en disant bêtement que les bonnes briques sont mauvaises parce que vous êtes parti avec un mauvais modèle pour juger les choses. C'est pareil. Nous avons vu hier que l'école nous a formatés de mauvaise manière. Si on était des 10 durs, il faudrait nous reformater. Partant de là, tous les éléments que vous prenez pour décider si quelque chose est logique sont eux-mêmes faux. Et donc, tout ce qui vous paraît logique est par définition faux, à quelques rares exceptions près. Et c'est pour ça que Dieu nous dit que ses pensées sont aussi éloignées des nôtres que le ciel est éloigné de la terre. Quand vous prenez ça seulement, on peut faire un séminaire dessus. La vérité est aussi éloignée de ce qui paraît logique à un homme que le ciel est éloigné de la terre. Évidemment, plus vous allez grandir dans la sagesse de Dieu, plus vous allez trouver logique les choses de Dieu et illogique les choses du monde. C'est ce qui arrive à un chrétien né de nouveau. À un moment, les autres te prennent pour un fou. Parce que son intelligence étant renouvelée en Jésus, la norme n'est plus ce qu'il sait, que tout le monde sait, c'est ce qu'il a appris que Dieu a dit. Partant de là, ce que tout le monde fait trouve logique, lui trouvera ça anormal. Et ce que lui trouve logique, parce que c'est ça que Dieu a dit, tout le monde dira qu'il est fou. Tout dépend du référentiel. La question, c'est que vous voulez fonctionner selon quel référentiel? Évidemment, il faut regarder quels sont les fruits que portent ceux qui fonctionnent dans le référentiel de Dieu. Et quels sont les fruits que portent ceux qui fonctionnent dans le référentiel humain? Et c'est pour ça, moi, je dis aux chrétiens que le moment n'a jamais été aussi favorable qu'aujourd'hui pour gagner des cœurs à Jésus. Parce qu'aujourd'hui, mieux que jamais, le monde est nu dans son imbécilité. À moins d'être idiot, on voit que les théories ne marchent pas, que les systèmes ne marchent pas, que les philosophies ne marchent pas. Tout ce qu'ils ont inventé ne marche pas. Et il voit bien que ça ne marchera pas. Si quelqu'un vous dit que le monde va s'améliorer, il ment. Le monde ira de mal en pire, de pire en pire jusqu'à la fin. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle. Pas parce que je suis content que les choses se passent mal, mais parce que quand ça se passe mal, les gens sont bien obligés de constater que ce n'est pas bon. Vous croyez que si tout va bien, que les bandits sont riches, qu'ils sont heureux, ils ont la paix du cœur, ils ne sont pas malades, vous pouvez les évangéliser en leur disant quoi? Que Jésus a quoi qu'ils n'ont pas dans le monde? Rien. Mais quand quelqu'un ne dort plus parce qu'il a des soucis, c'est un bon candidat pour Jésus. Parce qu'il a déjà expérimenté par la grâce de Dieu que son modèle donne les soucis. S'il est malade à guérir dans le monde, vous devez dire alléluia. Dieu lui a déjà fait la grâce de lui montrer. Écoutez, on dit dans la vie, quand on ne sait pas où on va, c'est déjà où ce qu'on veut, c'est déjà une chance de savoir ce qu'on ne veut pas. Si tu cherches une femme, tu ne l'as pas encore trouvée. Chaque mauvaise expérience, il faut rendre grâce à Dieu parce que, à défaut de t'avoir permis de trouver la bonne femme, en général, tu sors de chaque mauvaise expérience avec un critère de plus. Je ne veux jamais tel genre de femme. Ou je ne veux jamais tel genre de mari. N'est-ce pas? Donc, les mauvaises expériences ont au moins le mérite de préciser votre perception de ce qui est mauvais, de ce qui est bon. Si quelqu'un n'a pas expérimenté le monde pour savoir à quel point ça ne mène nulle part, il n'est pas un bon candidat pour le ciel. Ou alors il risque, après être venu au Seigneur, de faire ce qui est très grave, de retourner dans le monde. Regardez les Israéliens. Nous avons vu ici, demander à écouter, je ne sais plus quel séminaire on a fait, sorti d'Égypte, traverser son désert, rentrer dans sa terre promise. Mais en réalité, la sortie d'Égypte est une préfiguration de la sortie du monde pour un chrétien. Malgré qu'ils ont souffert pendant 400 ans d'esclavage, malmenés, esclaves, faisant des briques, ne mangeant pas bien, étant chicotés, malgré tout ce qui s'est passé, on dit même que leurs souffrances ont augmenté quand Moïse est venu dire qu'ils allaient partir. Ces gars-là, mais ces gars-là, c'est chacun de nous. Dès qu'ils ont quitté l'Égypte, ça n'a pas fait un mois, ils ont commencé à dire à Moïse qu'il aurait dû les laisser en Égypte, que c'était plus doux là-bas. Et c'est ça qui arrive aux chrétiens. On vient à Jésus, quelques jours d'effort, au point pour l'on dit, franchement, dans le monde, c'était encore mieux. Au moins là-bas, je pouvais avoir les femmes que je voulais, boire comme je voulais, faire la belle vie, sans faire d'effort. Mais c'est un leurre. Mais quand quelqu'un a déjà bien souffert dans le monde, qu'il a déjà tout essayé, il voit qu'il n'y a rien dedans, quand il vient au Seigneur, il lui est plus facile, même avec les épreuves, de savoir qu'il n'y a rien là-bas. Moi, je rends grâce à Dieu et le Seigneur ne fait rien. Ce que j'ai déjà fait dans ma vie, ce que j'ai déjà vu faire dans ma vie, fait que personne ne peut me blaguer. C'est pour ça que quand je vois les hommes politiques, les intellectuels là, je peux leur parler en face. Vous avez vu au dernier conseil VIP, je leur parlais de manière frontale et directe. Et regardez leur tête, ils savaient que tout ce que je disais était vrai. Il n'y a rien dedans. Certains d'entre moi appellent le lendemain matin à 7h du matin, des VIP, des gros patrons de Bénin, pour dire c'est toi qui as raison. Parce que je leur dis, je leur décris, ce que nous faisons là, je sais, il n'y a rien dedans. Si je mens, dites-le-moi, vous ne dormez pas. Il faut blaguer le peuple. On dit que vous êtes des patrons, vous contrôlez tout. Vous savez vous-même que vous ne contrôlez rien. Vous passez votre village à aller voir des petits féticheurs, des petits enfants au village. Ils vous font manger leurs chiottes et leurs pipis qu'ils ont séchés. Vous prenez ça en étant nu, en chantant, en dansant, en mettant des calebasses ridicules sous vos lits. Vous ne dormez pas. Vous allez en conseil des ministres avec des tirs à plein partout. Vous êtes comme quelqu'un qui est blindé. Oh, la moindre, j'y vous tue. Vous faites tout ça, ça n'empêche pas d'être limogé. Vous êtes malheureux, vrai ou faux? Non, pas du vrai. Mais celui qui n'a jamais fait ça va croire qu'il y a quelque chose là-bas, il faut le laisser aller découvrir. Donc moi, je souhaite aux gens d'aller un peu dans le monde d'abord. Mais c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on meurt. Si tu meurs pendant que tu es là-bas, c'est fini. C'est ça qui n'est pas bon. Si on était sûr de quand est-ce qu'on meurt, il faudrait aller goûter le monde un peu. Mais vous pouvez être en train de goûter le monde et vous allez finir là-bas. Dans ce cas, c'est trop tard. Non. Quand vous le savez, il vaut mieux prendre la bonne porte. Donc, Dieu a à la fois amour et justice. Mais Dieu, dans son amour, va par exemple prévenir. Dieu ne va jamais punir quelqu'un pour quelque chose qu'il ne sait pas. Même quand vous voyez au niveau de Lévitique et consorts, les lois que Dieu a données pour comment expier les péchés, il y a comment on traite un péché conscient et comment on traite un péché inconscient. Quand quelqu'un tue une autre personne par inadvertance, la Bible ne traite pas ça de la même manière que quand quelqu'un tue quelqu'un de manière préméditée. Quand tu ne connais pas une loi de Dieu et que tu l'enfreins, Dieu ne te traite jamais de la même manière que si tu connais très bien, tu as très bien compris que tu l'as enfreint. C'est pour ça que Paul dit, attention aux enseignants. Tout le monde joue les enseignants. Attention, nous les enseignants, nous serons traités plus sévèrement. Parce que par exemple, moi, ce que je sais là, il y a des choses, vous allez faire, rien ne vous arrivera. Si moi je fais, je vais y voir immédiatement des problèmes. Parce que je ne suis pas réputé de ne pas le savoir. Je n'ai aucune excuse. Parce que Dieu sait que je le sais. Il me l'a appris, il sait que je le sais. Et vous qui êtes dans un club comme le club Jésus pour réussir, vous en savez de plus en plus. Vous en savez trop pour vous permettre certaines choses. Si vous vous les permettez, Dieu vous frappera comme il ne frappera pas des gens qui sont dans une église. Parce que vous, vous savez. Vous savez, ça vous rend capable de beaucoup de choses. Mais ça vous rend non éligible à une certaine clémence qu'on accorderait à quelqu'un qui n'écoute que les bêtises tous les dimanches et qui n'a pas eu la grâce de connaître comment Dieu fonctionne. Mais en même temps, quand vous découvrez la vérité et que vous la mettez en pratique, vous atteignez des niveaux extraordinaires. Donc, nous avons dit hier, sagesse de Dieu par rapport à la sagesse des hommes, on a déjà traité ça, c'est aussi éloigné l'un de l'autre que du ciel de la terre. Sagesse, vérité. Oui, la sagesse, par définition, suppose la vérité. C'est faire ce qui est juste, c'est faire ce qui est vrai. Mais attention, ce que le monde appelle vrai n'est pas vrai. Le monde appelle vrai tout ce qui est réel. J'appelle réel ce que les sens humains perçoivent. On peut le toucher, on peut le voir, on peut le mesurer, on peut le sentir, on peut l'écouter. C'est vrai pour les sens humains. Dès que quelque chose est vrai pour les sens humains, moi j'appelle ça, quelque chose est réel, c'est dans la réalité. Le monde dit que c'est vrai. Le monde confond réalité et vérité. Mais la différence entre les deux, c'est que la réalité, c'est ce que nous percevons. Ce que nous percevons peut être ce qui est vrai, mais ce que nous percevons n'est pas souvent ce qui est vrai. L'homme sage doit pouvoir discerner entre ce qui est vrai et ce qui est perçu. Ce qui est perçu n'est pas souvent ce qui est vrai. Donc, tout ce qui est vrai au sens de Dieu, l'avoir à quoi votre sagesse. Mais tout ce qui est réel, le savoir ou tout ce qui correspond à la théorie des hommes, l'avoir non seulement n'a quoi pas votre sagesse, mais parfois vous abêtit. Est-ce que tous ceux qui sont remplis par le Saint-Esprit ont la sagesse de Dieu? Non. Non. Si vous êtes, vous croyez en Jésus, vous croyez qu'il est Seigneur, vous croyez qu'il est Sauveur, vous vous repentez de vos péchés, vous allez être baptisé. Baptisé dans la mort de Jésus, c'est-à-dire que Jésus va mettre à votre compte le salut qu'il a acquis pour l'humanité. Première étape. Deuxième étape, parce que vous avez cru en Jésus, selon votre niveau de foi et selon votre cœur et selon ce que Dieu seul sait, le Saint-Esprit peut vous baptiser. C'est-à-dire que vous allez recevoir un peu une présence en griffe à dose supérieure du Saint-Esprit qui est là, censé vous conduire, vous édifier, vous fortifier, vous donner un certain nombre de dons, comme le don de la sagesse, comme le don de la foi, comme un certain nombre de dons. Donc, le fait d'être baptisé du Saint-Esprit, c'est comme une introduction ou un armement spirituel. Le baptême du Saint-Esprit, c'est comme si vous recevez le pouvoir, la capacité, l'onction de faire les choses comme Dieu veut qu'elles soient faites. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Donc, si le Saint-Esprit décide d'élire domicile en vous, vous êtes, toutes choses étant égales par ailleurs, équipé pour plaire à Dieu. D'accord? Équipé pour plaire à Dieu, si vous voulez quelque chose, parce que Dieu ne fera jamais rien contre votre volonté, si vous voulez être sanctifié, il vous aidera à sanctifier. Vous voulez prier, il vous aidera à prier. Vous voulez être juste, il vous aidera à être juste. Vous voulez acquérir la sagesse, il vous donnera de la sagesse. Mais ce n'est pas parce qu'il est là que vous recevez automatiquement tout. Il faut demander. C'est pour ça, c'est d'ailleurs parlant du Saint-Esprit, que Dieu dit, cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Dans l'ordre, c'est d'ailleurs demander d'abord, c'est le plus simple, on vous donnera. Pour frapper, on vous ouvrira. Et si ça ne marche pas, cherchez, vous trouverez. Regardez bien, il y a une progression. Demandez, on vous donne. Si on ne vous donne pas, frappez, importunez un peu, on vous donnera. Si ça ne marche pas, cherchez. Jésus était en train de dire ainsi que le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui se désire ardemment. Plus vous y aspirez, plus vous le cherchez. Et les dons de Dieu en général, Dieu ne se jette pas, il n'est pas quelque part là, et puis bon, il suffit de vouloir essayer, et puis il se met à votre disposition. Les dons de Dieu viennent à ceux qui y aspirent. Si quelqu'un demande, quelqu'un aspire, quelqu'un a soif, quelqu'un a soifé de la puissance de Dieu, des dons de Dieu, il les recevra. Maintenant, ce n'est pas parce que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit que vous êtes assoiffé de sagesse. Première étape. Pour être assoiffé de sagesse, il faut reconnaître d'abord qu'on n'est pas sage. Je prends le cas de quelqu'un comme moi et de la plupart des gens qui sont lettrés. Plus vous avez un niveau élevé dans la vie, plus vous mettez du temps à réaliser que vous n'avez aucune sagesse. Les gens les plus élevés, les présidents, les ministres sont généralement les plus belles du monde, d'un point de vue de Dieu. Parce qu'ils ne savent même pas l'essentiel, à savoir qu'ils ne sont rien. La crainte de Dieu, c'est-à-dire savoir qui est Dieu, est le commencement de la sagesse. Quand tu sais qui est Dieu, tu sais automatiquement que tu n'es rien. C'est pour ça qu'il n'y a pas de plus grande vertu dans la Bible, à part l'amour que l'humilité. L'humilité, je dis toujours, ce n'est pas le fait de croire, ce n'est pas le fait de faire le petit, de faire le modeste, de faire le niais, d'être riche, je dis, je suis pauvre, ce n'est pas ça là que j'appelle l'humilité. L'humilité au sens biblique, c'est savoir qu'on n'est rien, qu'on ne peut rien, qu'on n'a rien. On a tout reçu cadeau et on ne peut rien par soi-même. Tout ce qu'on peut, c'est que Dieu l'a permis. Tout ce qu'on a, c'est que Dieu le veut. Celui qui comprend cette vérité simple-là, qui n'est rien, si ce n'est pas que c'est Dieu qui le veut, qui ne peut rien, qui n'a aucune idée, qui n'a aucune force, que rien ne lui est acquis, que tout vient au quotidien par Dieu, et que Dieu peut fermer le robinet en une minute, ou l'ouvrir et tout le monde va être effrayé. Quand on a compris ça, on est déjà plus intelligent que la majorité des gens du monde. Mais ça là, la plupart des gens qu'on dit importants ne l'ont pas compris. Donc, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit, jeune chrétien, avec plein de ferveur. Mais selon votre histoire, on ne comprend pas vite ça là, par exemple. Or, pour aspirer à la sagesse, c'est pas de dire, Seigneur, donne-moi la sagesse de Salomon. Ça, c'est du bavardage. Dieu ne regarde pas aux apparences. Il regarde au cœur. C'est pas la peine de faire des récitations, Seigneur, donne-moi. Il s'en fout de ce que tu dis. Dieu écoute votre cœur, il n'écoute pas votre bouche. Bon, il écoute, mais il ne prend en compte ce que dit votre bouche que quand c'est aligné sur ce qu'il y a dans votre cœur. Quand quelqu'un dit qu'il veut la sagesse, c'est un discours tant qu'il n'est pas conscient qu'il n'en a pas. Si vous croyez que vous êtes sage et que vous demandez à Dieu de donner la sagesse, vous êtes un hypocrite. Pour demander la sagesse et la recevoir, il faut commencer à reconnaître qu'on n'est pas sage, qu'on est bête. Il faut commencer face aux situations à se dire, l'idée que j'ai là, c'est une idée saugrenue. Ça ne peut jamais marcher, même si ça semble vouloir. Parce que, attention, quand on dit qu'on a besoin de la sagesse de Dieu, le premier cas que tout le monde voit, c'est on est confronté à un problème, on ne sait pas comment faire. D'accord. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le plus dangereux. C'est le cas où vous croyez savoir ce qu'il faut faire, mais où ce qu'il faut faire n'est pas ce que vous croyez qu'il faut faire. Vous voulez gagner un marché. On vous propose de faire du faux. Vous croyez dans votre sagesse que c'est une idée géniale. C'est Dieu qui vous a donné l'idée de dribbler les gens, de faire tel kofuku, faire une bénédiction de Dieu. Vous croyez avoir l'idée de génie. Cette idée de génie-là va vous tuer. La sagesse de Dieu permet de savoir qu'est-ce qu'il faut faire sans que ça ne soit suivi de chagrin. Pour ça, Dieu nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Ce n'est pas que les hommes manquent d'idées, ils en ont plein. Allez les voir à l'université, pour tout et rien, ils se mettent à bavarder, à faire des théories, des élucubrations, des spéculations. À chaque problème, on invente une théorie. Ça, ce n'est pas le plus difficile que d'avoir une idée. N'est-ce pas, Justin? Ce n'est pas le plus difficile que d'avoir une idée. Alors, si c'est les juristes, c'est encore pire. Ils vont parler, baratiner, tourner tout. Si vous comprenez rien, ils vont baratiner. Mais ils n'ont rien dit de sérieux, ce n'est que du vent. Mais quand Dieu te donne une idée sage, elle a l'air simple. On peut même la trouver bête. Mais elle a le pouvoir de régler, non pas une partie du problème, mais de régler tous les problèmes presque immédiatement et sans aucune conséquence. Vous allez voir que quand nous enseignons par exemple la démarche d'identification de solution des problèmes dans le monde, quelle que soit la solution que vous trouvez un problème, cette solution pose des problèmes. Toute solution dans le monde pose des problèmes. C'est-à-dire, toute solution humaine est suivie de chagrin. Tu veux quelque chose, tu l'achètes, tu deviens endetté, tu veux une femme, tu l'épouses, tu ne peux plus dormir, tu veux un mari, tu l'épouses, ça devient la fin de ta vie, tu veux un enfant, tu l'as, c'est maintenant tu vas commencer à mendier. Regardez bien, tout ce que nous produisons par notre sagesse-là devient problème. À telle enseigne que Dieu pas fort à nous donner ce que nous demandons, mais nous ne lui disons jamais merci parce qu'à peine il a donné que nous voyons que ce n'est pas bon. Ou bien, c'est ça la signature de la sagesse humaine, du vent. Ça paraît droit, ça mène à la mort. On mange bien, dès qu'on a un peu d'argent, s'assoit, on prend un mouton tout seul, on le mange avec une table, 40 bouteilles de bière, on invite ses amis, on achète 10 bouteilles de champagne, on achète tout seul le VIP, voilà. Elle président et il fait la belle vie. Ça paraît très brillant. Et le lendemain, il est à l'hôpital, rapidement, il fait faillite et tous ses amis la disparaissent. Et il commence à dire que les hommes sont justes. Personne n'est juste, celui qui est idiot. La sagesse de Dieu, dans les cas, quelle que soit leur complexité, quand c'est Dieu qui te donne une idée, l'idée règle tous les problèmes et n'a aucune conséquence. Ça, Dieu dit, quand Dieu donne quelque chose, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Ce n'est suivi d'aucun chagrin. Toute chose que tu fais et qui te crée des problèmes insurmontables ne vient pas de Dieu. Si c'est Dieu qui t'a dit quoi faire, tu ne peux pas le faire, ça va donner un problème. Donc, il est très tentant quand on a été à l'école. Il est très tentant quand on est intelligent. Il est très tentant quand on a un caractère fort de personne qui est habituée à se battre, à se défendre dans la vie, on dit faire un débrouillard, il est dynamique. Plus on est comme ça, plus on a du mal à avoir l'humilité de demander la sagesse. Parce qu'on croit à tort qu'on est sage. Et on voit, on est toujours nous qui avons les meilleures idées. Tout le monde nous applaudit toujours. Mais c'est toujours nous qui avons les plus grands problèmes, on ne va pas très loin. Avoir la sagesse suppose qu'on la demande. Pour la demander avec foi, il faut commencer à réaliser sincèrement qu'on n'en a pas. Et remettre en cause toutes les idées apparemment brillantes qui nous arrivent. Et l'une des manières les plus simples de les remettre en cause, c'est de voir leur fiabilité par rapport à la parole de Dieu. Vous allez voir que la plupart des idées que nous avons sont des idées dont la mise en application contredit les ordonnances de Dieu. Dieu dit, tu ne mentiras pas. Être sage, c'est savoir que quand Dieu dit, tu ne mentiras pas, ce n'est pas une manière de parler. Tout ce que Dieu interdit, il l'interdit pour notre bien. Vous voyez, quand on a un enfant, par exemple, on pense qu'il y a des choses que les parents interdisent juste pour nous emmerder. Les parents disent ne va pas en boire de nuit, on pense que c'est pour nous emmerder. Ils disent ne fume pas, on pense c'est pour nous emmerder. Regardez bien, rappelez-vous. En tant qu'enfant, toute ordonnance d'un parent est perçue comme une volonté simplement de jouer le papa ou la maman sur l'enfant. Et autant que faire se peut, on essaie de violer l'ordonnance. On s'amuse un enfant à se vanter de qui a été le plus habile pour violer l'ordonnance de papa sans se faire attraper. Parce qu'on croit que papa fixe ses ordonnances ou interdit les choses juste pour faire le malin parce qu'il est trop sévère. Alors que quand nous grandissons et que nous devenons papa, nous découvrons à quel point chaque consigne d'un père est une consigne de quelqu'un qui sait comment ce que nous faisons là-bas mal se terminer et il sait de nous les vies. Il n'y a pas une seule consigne qu'un père donne juste pour fatiguer ses enfants. Chaque consigne correspond à une menace anticipée qu'il essaie d'éviter à son enfant. Mais de la même manière qu'un enfant, parce qu'il est petit, pense que quand il dit de ne pas fumer, c'est juste pour le fatiguer, parce que lui ne voit pas en quoi la fumée peut faire du mal, alors qu'aujourd'hui, il sait très bien qu'il voit les gens mourir de cancer plein, il voit le lien. De la même manière, nous sommes tous ces enfants de Dieu. Et de la même manière que vous faites des choses qu'il a interdites en pensant que c'est un petit détail, qu'est-ce que cela peut m'enlever? En quoi ça peut m'empêcher d'être béni? Si vous saviez ce que Dieu sait, vous sauriez que chaque consigne de Dieu est à prendre très au sérieux. Il est impossible. Quand Dieu dit qu'il est amour, mais que quoi que vous ferez, vous le récolterez, c'est qu'il y a des choses que vous récolterez, non pas parce que Dieu est fâché, mais parce que vous êtes obligé de récolter. Dieu dit, ne mets pas du maïs en terre ici. C'est un ennemi qui est ici, s'il voit ton maïs, il va te tuer. Tu désobéis à Dieu, tu mets le maïs en terre. Dieu t'aime, d'accord, mais le maïs va pousser. Dieu ne peut pas faire, on ne peut pas empêcher le maïs de pousser. C'est une loi de la vie, quand on met du maïs en terre, ça pousse. Le maïs pousse, celui qui est là va vouloir te tuer. Il va te tuer. Dieu, s'il est trop miséricordieux parce que tu es chrétien, il va te laisser aller au paradis après ta mort. Mais tu aurais écouté ta vie. Si ton papa te dit tu es une fille, de ne pas commencer à courir derrière les garçons à 16 ans, bon, tu penses que si tu le fais, il va te sortir la maison. Quand tu fais, tu attrapes une grossesse. Généralement, il ne va pas te sortir la maison. Tu es quand même sa fille. Comme on dit, il n'y a pas de tas d'ordures pour les filles. Mais il y a rien qui puisse faire pour t'empêcher de ne pas avoir l'enfant. Et quand tu as un enfant, ta vie est bousillée. Soit ne fera plus jamais comme une fille qui est célibataire. Tu n'auras plus jamais un mariage avec quelqu'un qui est célibataire. Tu ne pourras plus jamais faire la maligne. Il y a des choses que tu ne pourras plus jamais faire. Ton père ne peut rien faire pour te l'éviter, tu vas le récolter. Il peut t'éviter d'être mis à la rue, comme certains, mais il ne peut pas t'éviter d'avoir un enfant parce que tu l'as cherché. Et c'est ça le principe. La sagesse de Dieu n'est pas faite parce que Dieu n'avait rien d'autre à faire que de dire, bon, il faut. Quand vous allez acquérir la sagesse, vous allez découvrir que dans les plus petites virgules que Dieu a mis, il y a une volonté de vous préserver. Vous prenez le mensonge. Le mensonge ouvre la porte de votre vie à Satan. Moi, j'ai échappé à beaucoup de pièges de l'ennemi rien qu'en refusant le mensonge. Et je ne le savais pas quand je refusais. Mais quand j'ai découvert après ce qu'on me préparait, et que si j'avais accepté de mentir, je serais tombé dans le piège, je dis merci Seigneur de m'avoir appris à ne pas mentir. Il n'y a pas de petit mensonge. Hein. Un mensonge, c'est un mensonge. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Pour que vous compreniez. Parce qu'il faut que vous compreniez ça. Les gens ne comprennent pas. Vous ne prennent pas encore au sérieux la parole de Dieu. C'est comme si, je ne sais pas, quelqu'un te doit 1 million. Bien sûr que c'est un bon exemple. Tu vas voir un juge pour dire de l'obliger à te payer ton million. Le juge dit d'accord. Il enclenche une procédure pour contraindre la personne à te payer ton million qui t'a enfermé parce qu'il a violé la règle qui dit qu'il ne doit pas te devoir de l'argent. Pendant ce même temps, toi-même, je ne sais pas, peut-être parce que tu n'es pas capable de te garder, tu engrosses la fille d'un voisin. Ou bien, par exemple, toi-même, tu dois à quelqu'un d'autre, tu refuses de payer. Quel que soit le point auquel le juge voulait te défendre et te faire droit, quand lors des débats, il va vouloir enfermer l'autre doigt de main, pendant qu'on y est, celui qui est en train de m'accuser, là, est-ce que lui-même est fin? Le juge a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Mais on ne vous a pas dit qu'il a engrossé la fille du voisin. Donc lui, on doit l'enfermer aussi parce qu'il a engrossé la fille du voisin. Donc il est mal placé pour moi chercher à me faire enfermer ce plomb parce que je lui dois 1 million. Moi, je lui donne 1 million demain. Est-ce que lui, il peut rendre vierge à la fille du voisin demain? Si on est dans certains contextes, tu veux qu'on te dise le droit en ta faveur. Toi-même, tu es digne d'être condamné. Si le juge est sérieux, ou il condamne l'autre et te condamne immédiatement après, soit il dit, bon, laissez tout tomber, allez vous entendre. On ne peut pas obtenu de Dieu qu'il écarte Satan de vous si vous êtes un collaborateur de Satan. Vous allez voir que Jésus dit, quand il veut dire, il parle de certaines choses, il dit, mais Satan arrive. Mais n'ayez pas peur, il n'y a rien de lui en moi. On ne peut affronter quelqu'un que quand on ne lui doit rien. Si tu me dois 100 000, je demande de t'enfermer. On arrive au tribunal, tu dis, oui, mais il avait pressé ma moto depuis 2 ans, il ne me l'a pas rendu. Jésus va dire, c'est vrai? Tu dis, non, c'est pas ça, il ne me l'avait pas fait. Ça veut dire, c'est vrai que tu as pressé ma moto, tu ne l'as pas encore rendu. Si tu dis, oui, toi, tu veux pas t'en sortir. Tous les deux. Tu ne peux pas demander qu'on te punisse quelqu'un auquel tu dois quelque chose. On va dire, va d'abord lui donner sa moto et après viens poser le problème du fait que lui te doit 100 000. Quand vous péchez, qu'est-ce que vous croyez que vous faites? Le péché à qui comme père? Qui est le propriétaire du péché? C'est Satan. Chaque fois que vous péchez, vous mettez dans votre vie un esprit satanique. Celui qui pêche est celui qui est gouverné à cet instant précis est influencé à cet instant précis par l'esprit du mensonge, qui est un esprit démoniaque. Donc, quand tu dis à Dieu, que le feu descend sur Satan, Satan c'est un règne. Il y a une partie de son territoire en toi, à travers le mensonge, à travers la jalousie, à travers l'adultère, à travers des choses comme ça. Quand tu demandes que Dieu foudroie le règne de Satan, comment peut-il le foudroyer sans te foudroyer alors qu'une partie de Satan est en toi? Je ne sais pas ce que je veux dire. Tu dis, Seigneur, détruis tout ce qui vient de Satan. Dieu rien en disant, mais est-ce que le petit a fait que s'il doit détruire tout ce qui vient de Satan, je vais détruire des choses qui sont en lui. Il ne va pas suivre lui-même. Feu du Saint-Esprit sur tous les esprits méchants. Mais ils sont là pleins en toi. C'est ça qui fait que tu détestes ta coépouse. C'est ça qui fait que tu es jaloux. C'est ça qui fait que tu mens. C'est ça qui fait que tu ne pries jamais. C'est ça qui fait que tu es tout le temps en train de médire des autres. Tu vois quelqu'un passer au bord de la route comme tu n'as rien à faire dans ta boutique. Tu passes ta journée à l'insulter. Ça, c'est des esprits mauvais. Quand tu dis feu du Saint-Esprit sur tous les esprits démoniaques, le feu doit défendre sur toi aussi. Le feu doit défendre sur toi aussi. Non, on n'a pas d'autorité spirituelle pour combattre le mal et pour prendre possession de ses bénédictions quand on commet le péché. Et commettre le péché, c'est quoi? C'est désobéir à Dieu. Soit parce qu'on ne connaît pas ce que Dieu a dit, soit parce qu'on le connaît encore pire et qu'on décide de ne pas le faire. Et c'est pour ça que l'un des plus grands combats que doit gagner quelqu'un qui veut aller loin avec Dieu, c'est de s'éloigner du péché sous toutes ses formes. Tout ce que tout le monde sait est interdit, il faut éviter de le faire. Et ensuite, il faut aller découvrir de plus en plus la parole de Dieu au quotidien pour savoir de plus en plus qu'est-ce que Dieu a interdit ou qu'est-ce qu'il a recommandé. Parce qu'il y a deux choses qui font les ordonnances de Dieu. Ce qu'il dit de faire et ce qu'il dit de ne pas faire. C'est deux choses différentes. Il y a des choses interdites et il y a des choses recommandées. Il faut commencer par éviter l'interdit et il faut ensuite faire ce qui est recommandé. Grandir en sagesse, c'est grandir dans la connaissance des interdits et des recommandations de Dieu. Et la Bible est pleine de vérités. La vérité, c'est quoi? C'est des affirmations de certaines lois. Vous devez savoir que toute loi affirmée par Dieu est la vérité. Quand il y a contradiction de ce que vous savez et ce que Dieu dit, c'est forcément vous qui avez tort. Ça ne peut jamais Dieu qui a tort. Évidemment, mais vous ne savez pas le penser. Pourquoi on a du mal à avoir la foi? On a du mal à avoir la foi parce qu'on met en compétition, en contradiction, sa logique héritée du monde et la logique de Dieu. Et on dit, j'ai du mal à croire. J'ai du mal à croire, pourquoi? Parce que ce qui me paraît logique, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, vous dites, Seigneur, je ne peux pas te suivre parce que ce que Satan m'a appris me paraît plus vrai. Vous devez savoir ce qui est écrit et obéir à la lettre sans discuter. Je ne dirais pas sans chercher à comprendre, mais je dirais sans attendre de comprendre à ce qui est écrit. Quand par exemple la Bible dit, il y a plus de plaisir et de bonheur à donner qu'à recevoir. Pendant longtemps, je me disais, mais ça veut dire quoi ça là? C'est bizarre. Comment on va me dire qu'il y a plus de bonheur en donnant qu'en recevant? Mais j'ai fini par le découvrir. Regardez bien, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, le sentiment qu'on a, la paix qu'on a, la joie qu'on a là, est plus grande que la joie qu'on a quand on nous donne quelque chose. Hein. Quand quelqu'un vous donne quelque chose, vous vous sentez petit, vous vous sentez redevable. La preuve, quand quelqu'un te donne quelque chose, tu cherches immédiatement comment tu peux le lui rembourser ou faire l'équivalent pour te dégager un peu de ce sentiment que celui qui te donne quelque chose te possède un peu. Celui qui te donne quelque chose est forcément plus grand que toi. Parce que la Bible est claire, la main qui donne est au-dessus. Celui qui te donne quelque chose dans le domaine où tu l'as donné est plus grand que toi. Tu peux être milliardaire, un jour tu as des soucis, tu croises une vieille femme, elle te fait un sourire, elle te dit une phrase qui t'apaise. C'est que dans le domaine de la paix du cœur, elle est beaucoup plus grande que toi, le milliardaire. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas plus que les autres. Et c'est pour ça que les pays africains qui passent tout leur temps à mendier seront toujours des pays pauvres. Parce que personne ne peut grandir en étant un éternel réceptacle de dons. On grandit spirituellement, on grandit matériellement en donnant, pas en recevant. C'est ça que les gens n'ont pas compris. C'est ça que les Africains n'ont pas compris. C'est ça que les pauvres n'ont pas compris. Vous n'avez jamais vu un mendiant devenir riche et arrêter de mendier? Ce n'est pas que le montant qu'il accumule n'est pas beaucoup, mais il ne peut jamais rien en faire parce que la vie a ses règles. Et un sage le sait, on ne récolte que ce qu'on a semé. Si tu sèmes peu, tu récolteras peu. Tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Tu sèmes beaucoup, tu récolteras beaucoup. Si quelqu'un n'a rien à semer, il n'a qu'à savoir qu'il n'a rien à attendre de la vie. Et quand Dieu veut bénir quelqu'un, il commence toujours par lui donner deux choses. De quoi manger pour tenir le coup, mais surtout de quoi semer pour récolter demain. Maintenant, pour beaucoup de personnes, le problème c'est quoi? Par manque de sagesse. Quand Dieu donne de quoi manger, de quoi semer, il mange tout et ne sème rien. Quand Dieu te donne une mangue, ou bien, oui, une mangue, par exemple, il veut que tu manges la chair, la peau normalement tu dois jeter, mais il y a des gens qui ont tellement faim, ils mangent encore la peau. C'est pas grave encore à la limite. Mais il veut quand même que tu mettes la graine en terre, pour que au moins dans un an ou dans deux ans, tu aies un mangue avec peut-être 100 mangues. Et tu vas l'avoir pendant plusieurs années. Si tu prends chacune de ces mangues, tu les manges, et tu remets leur pépin en terre, dans 10 ans, tu auras des dizaines de manguiers. Tu vas devenir même un grand exportateur de mangues. Ça, c'est le plan de Dieu pour chacun. Regardez bien, le noyau d'une mangue fait à peu près 10% du volume de la mangue. C'est ça la dîme. Dieu donne, c'est écrit dans sa parole, la nourriture à celui qui doit manger à l'homme, et la semence au semeur. Mais si le semeur mange la semence, par quelle magie va bénéficier de la bénédiction de Dieu, de la prospérité? Puisque Dieu dit, je bénis l'œuvre de vos mains. Donc quand Dieu veut te bénir, il te donne quelque chose à faire. Et pendant que tu le fais, il le bénit. Tu mets en terre là où les gens récoltent une tonne, tu récoltes cinq. Ça, Dieu sait le faire. Tu fabriques quelque chose, personne n'arrive à vendre, tu vends. Dieu sait le faire. Mais Dieu ne sait pas prendre quelqu'un qui dort et faire en sorte qu'il y ait le matin de l'or à son pied. Il n'a jamais fait ça dans la Bible. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il le fera. Donc quand Dieu donne du travail, il donne de la semence à quelqu'un. La personne mange la semence. La personne a dit, je ne veux pas de ta bénédiction. Dieu vous donne 1000 francs. Ça fait 900 francs à manger et 100 francs à semer. Manger les 1000 francs, c'est votre problème. Vous croyez que vous êtes malin? C'est votre problème. C'est comme manger le noir du mangue. Quand même, la mangue, et puis ça pose ça de vous rassasier. Pourquoi vous allez manger forcément le noyau? Et quand vous mangez le noyau, ça n'a même pas bon goût. C'est amer, c'est dégueulasse. Ce que vous mangez, quand vous mangez la dîme de Dieu, c'est dégueulasse. Vous allez avoir des problèmes. On va vous voler, on va vous escroquer, vous serez tout le temps malade. Quand vous volez Dieu, vous êtes maudit. Vous avez l'argent, ça ne fait rien de bon dans votre vie. Comment? C'est quand même bête de se créer des problèmes avec Dieu en bouffant l'argent. Il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent bouffer l'argent. C'est l'argent de Dieu que vous allez bouffer. Quand même, un peu d'intelligence. Et celui qui a la sagesse humaine là, tout ça lui paraît bizarre. Mais quand vous connaissez Dieu, ça là, c'est comme le béaba. C'est tellement évident, c'est logique. Le contraire est bizarre. Parce que ça, c'est la vérité. La vérité ne paraît pas logique. Parce que quel que soit notre âge, faisons-moi, j'ai 34 ans. Peut-être pendant 30 ans de ma vie, on m'a raconté le contraire. Donc c'est normal. La nature prend des habitudes. Mon naturel continue de trouver bizarre certaines choses. Mais l'idée, c'est qu'en Jésus, notre intelligence se renouvelle. Plus je vais manger de la parole de Dieu, plus la logique de Dieu deviendra ma logique. Et plus la logique de Dieu devient ma logique, plus elle devient mon naturel. Plus la logique de Dieu devient mon naturel, plus je commence à avoir le pouvoir de Dieu à faire des choses que les gens trouvent bizarres. Pourquoi? Parce que j'ai atteint un niveau où je ne fonctionne plus comme les hommes, je fonctionne comme Dieu. Donc, pour acquérir la sagesse, la parole de Dieu, à méditer jour et nuit. La parole de Dieu directement au sens primaire, la Bible, les commentaires bibliques. Comme je dis, ce n'est pas pour rien que l'une des premières choses que j'ai fait au club, c'est de mettre, vous savez, on a là plusieurs millions, il y a plus de 10-15 millions de livres là. Prenez certains livres, regardez derrière, regardez le prix. Les livres ont un prix moyen de 12, 15 milliards, des livres de 16 milliards, des livres de 50 000 là. Et c'est le problème de l'Africain. Pour lui, quand quelqu'un a besoin de l'argent, il demande qu'on donne l'argent. L'argent qu'on donne va finir. Moi, heureusement, j'ai appris de mon père, je lui rends grâce. Que celui, tout ce qui t'apprend gagne de l'argent, tout ce qui t'apprend la vérité vaut mieux que tout ce que le monde te donnera. Moi, on peut me proposer un milliard en me disant je te donne un milliard, je dirais non. Donne-moi plutôt la capacité de créer des milliards que de me donner un milliard. Si vous n'êtes pas capable de consacrer du temps à la compréhension des vérités, à l'acquisition de la sagesse, vous êtes forcément en jeu. Regardez par exemple l'informatique aujourd'hui, tout ce que ça permet d'extraordinaire. Mais il y a encore des gens qui sont tellement illettrés que quand on dit ordinateur, ça ne veut pas ce que ça veut dire, ça ne veut pas allumer. Il dit, c'est difficile. Vous imaginez qu'en 2013, là, il y a des gens qui n'ont pas d'adresse email. S'il y en a parmi vous, il faut avoir honte, il faut aller en créer. Ce n'est pas normal en 2013 de ne pas avoir d'adresse email. Il faut avoir honte. Si quelqu'un n'en a pas, moi, je vous dis, il faut avoir honte. Il faut arrêter de donner Jésus. C'est indispensable. Un pasteur, il peut rester dans son bureau, écrire tous les matins à tous ses fidèles gratuitement. Au nom de quoi on est censé mépriser ça? Vous rentrez n'importe quel sujet biblique, n'importe quel verset sur Internet, vous allez trouver plein de gens qui ont écrit dessus, des gens qui ont commenté, des gens qui ont analysé, des gens qui ont témoigné. C'est extraordinaire. Et Dieu l'avait annoncé, hein? Il dit que vers la fin, il lèvera le voile sur beaucoup de choses qui sont restées cachées. C'est prévu que plus on approchera de la fin du monde, plus Dieu ouvrira les vannes de la sagesse. Mais il y a encore des gens qui ne savent pas allumer un ordinateur. C'est normal. Comment fonctionner dans le monde d'aujourd'hui si on n'est pas assez intelligent pour payer, quel que soit le prix, de quoi savoir utiliser un ordinateur? Ce n'est pas de savoir taper une touche à la minute pendant et écrire une page en 3 heures de temps. Ce n'est pas ça la chose. Il faut savoir ce qu'est un ordinateur, savoir l'utiliser. Être même capable d'imaginer de nouvelles manières de l'utiliser. Ce n'est pas facile. Connaître la parole de Dieu, ce n'est pas facile. Mais sans ça, vous n'irez nulle part. Il n'y a rien à faire pour acquérir de la sagesse sans comprendre et ingurgiter les vérités qui constituent la sagesse. Évidemment, le Saint-Esprit va vous donner des révélations. Il y a des choses que Dieu, au travers de vos expériences, va vous enseigner. Mais moi, j'ai découvert que même cet enseignement du Saint-Esprit va d'autant plus vite que vous comprenez son langage. Si vous ne comprenez pas le langage de Saint-Esprit, il ne peut pas vous parler. Si je me mets à parler arabe ici, c'est comme si je ne faisais rien. Je peux parler pendant 3 jours, vous ne comprendrez rien. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas appris arabe. L'une des manières dont le Saint-Esprit parle aux gens, en tout cas, l'une des manières dont il me parle beaucoup, et je crois que ça doit être pareil pour beaucoup de gens, c'est de vous rappeler dans certaines circonstances des versets bibliques ou des extraits de la Bible qui ont rapport à votre problème. J'ai souvent raconté cet exemple ici. Pour ce club-là, j'avais besoin par exemple de quelqu'un pour tenir le restaurant, le bar. Je n'avais personne de sérieux. Et mon épouse et moi, nous avons identifié, par exemple, dans un restaurant de la place, quelqu'un qui correspondait vraiment à tout ce qu'il nous fallait. Il travaillait là-bas, nous l'avons vu 2-3 fois, on lui a posé des questions, on connaît son salaire, on était même prêt à augmenter son salaire pour le débaucher. Et nous sommes partis dans le restaurant pour manger un jour, on était sûr que ce jour-là, on va le débaucher, puis point final. Je m'apprêtais à l'appeler, quand alors que je ne vois même pas de problème, ce n'est pas que je réfléchis à son recrutement, hein. C'était bouclé, je suis venu, on mangeait, je savais que j'allais l'appeler, j'allais prendre son téléphone et puis c'est fini. Je m'apprêtais à l'appeler, quand quelque chose est mis dans mon esprit, tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Tu sais, je ne connais pas les 10 commandements là, ça, on ne peut pas me rappeler ce que je ne connais pas. Il dit, tu ne convoiteras pas bien ton prochain. Et immédiatement, quelqu'un me dit, ce que tu fais aux autres, on te le fera. On te traitera comme tu auras traité les autres. On te jugera comme tu auras jugé les autres. Immédiatement, je comprends ce que ça veut dire. Dieu est en train de me dire, prendre, débaucher ce gars-là. Alors que moi, je suis un recruteur. On m'a formé, fait mon boulot. Passer mon temps à trouver des bons gars, leur proposer mieux, les débaucher pour un client. Ça, c'est la logique du monde. On me paye même pour ça, c'est ma spécialité. Dieu me dit, petit, si tu le prends là, tu es en train de voler le collaborateur de quelqu'un. C'est du vol, rien d'autre. Sache que parce que tu l'auras volé, quand on essaiera de voler tes collaborateurs, je ne pourrai pas l'empêcher. Sache que là, tu voles peut-être un serveur. Mais quand quelqu'un volera ton directeur technique ou ton directeur financier, un gars clé, parce que tu as fait ça, je ne serai pas en autorité pour te protéger. Sache que tout ce que le diable donne est suivi de chagrin. Tu vas te créer des problèmes avec sa patronne, il viendra chez toi. S'il peut partir de là, c'est qu'il est malhonnête. Il viendra chez toi, il partira aussi. Sache que si tu peux le prendre de là, on le prendra de chez toi en lui proposant un peu mieux comme tu as proposé. Elle dit, les idées ont commencé à défiler dans ma tête. J'ai dit, chérie, on ne le prend plus. Elle dit quoi? Pourquoi? Avec tout ce qu'on a fait pour toi, je dis, on ne le prend plus. Elle dit, pourquoi? J'ai dit, le Saint-Esprit vient de me dire tel, tel, tel. Elle dit, yeah, c'est vrai, on a oublié. Ok, on laisse tomber. Parce que nous avons en commun un respect strict de la parole de Dieu. Et dans un couple, entre parenthèses, pour ceux qui sont en couple, il n'y a rien de plus fédérateur que d'avoir Dieu pour arbitre au quotidien. Quand dans un couple, quels que soient les différends que vous pouvez avoir, ça se tranche en disant, pendant qu'on y est, qu'est-ce que Dieu en dit? Et que tout le monde est d'accord par avance. Que quand nous allons trouver ce que Dieu en dit, sa valeur de choses jugées, vous n'allez jamais avoir de problème de couple. Et c'est pour ça que je dis, vous voulez épouser quelqu'un, même si la personne ne vous craint pas et ne vous aime pas, ce n'est pas grave. Assurez-vous qu'elle craint Dieu. Ce n'est pas qu'elle soit chrétienne, il y a plein de chrétiens qui ne craignent pas Dieu. Assurez-vous que la personne craint Dieu. C'est-à-dire que la personne a atteint un niveau spirituel où il sait de quoi Dieu est capable, il sait comment Dieu réagit. Quand cette personne atteint ce niveau, vous n'avez plus de soucis, vous faites aller dormir. Mais quand quelqu'un n'a pas peur de Dieu, il ne peut avoir peur de rien. Moi, aujourd'hui, il y a des affaires que je ne ferai plus jamais avec un païen. Je ne dis pas que je ne ferai rien avec un païen. Mais il y a des confiances que je ne ferai plus jamais un païen. Parce que je sais que même s'il veut, il ne peut pas être fidèle. Mais quand quelqu'un craint Dieu, je peux lui faire confiance parce que même s'il me trahit, je n'ai même pas à me stresser. Nous avons un Dieu commun. Quand ton petit frère te crée des problèmes, ce n'est pas compliqué. Papa est là. Mais s'il n'est pas de la famille, quelqu'un te crée des problèmes dans la rue, c'est même pas si ton papa va le voir pour le corriger. Mais quand c'est ton petit frère dans la même maison, non, il n'y a pas le problème. Donc, c'est important de connaître aussi la parole de Dieu. De telle sorte que Dieu dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Mais quand tu ne connais pas la parole de Dieu, il ne peut pas te rappeler sa parole. Parce que pour te parler, il doit parler sa langue. Sa langue, c'est les Écritures. Si tu ne connais rien aux Écritures, parfois il va te donner une conviction, une intuition. Mais ça n'aura pas sur toi l'effet qu'aurait le rappel d'un verset précis. Qui tombe tellement de nulle part que tu sens bien que c'est lui qui est en train de te parler, il faut arrêter de faire le malin. C'est important de connaître la parole de Dieu. Et quand, surtout, si vous êtes en train de réfléchir à un problème et des idées vous viennent, c'est autre chose. Mais la spécialité de Dieu, c'est qu'à un moment où tu n'es même pas en train de penser à un problème, l'idée tombe là. Non, il ne faut pas croire que c'est votre réflexion. La manière dont ça arrive brutalement là, comme un cheveu sous la soupe, c'est la signature de Dieu. Il dit, le Saint-Esprit est comme le vent. Nul ne sait d'où il vient, où il va. Quand une pensée vous vient de Dieu, vous ne savez jamais d'où elle vient. Si je suis en train de réfléchir à comment je vais faire pour avoir des enfants et l'idée me vient d'aller appeler telle personne qui est un spécialiste de ça, je peux dire que je réfléchis. Mais imaginez que je suis dans une grande ligne d'affaires, en train de discuter de complètement autre chose. Et tu me dis, mais pourquoi tu ne vas pas voir telle personne? Il a eu un problème d'enfant, il a eu maintenant un enfant. Va lui parler. Je vais me dire, mais qu'est-ce que ça vient chercher maintenant? Je refoule. Et le truc insiste, ou bien un autre jour encore, je suis en train de faire autre chose qui n'a rien à voir. Ça vient. Il faut commencer à dire attention, ça là. Ce n'est pas une idée qui est venue par hasard. Il semble, et vous commencez à faire attention à ça, vous allez avoir une précision. Mais plus vous connaissez la parole de Dieu, plus c'est facile. Et quand vous connaissez la parole de Dieu, selon les moments de voir d'où vous êtes. Parce que quand nous ne prions pas seulement pour avoir les ossements. Moi, j'ai arrêté de prier pour avoir seulement les ossements parce que dans la plupart des cas, le plus beau cadeau que Dieu vous fait, ce n'est pas de vous donner ce que vous voulez, c'est de vous répondre. Quand on dit réponse, ça veut dire quoi? Des fois, tu demandes quelque chose à Dieu et tu commences à paniquer. Dieu ne te répond pas, mais il te rappelle. C'est dans le calme et la confiance que se trouvera ta force. Ça veut dire quoi? Tu es en train de douter et tu t'apprêtes à commencer à dire, bon bien, je vais faire telle stratégie, telle. Dieu te dit, je ne t'ai pas demandé. Ou bien, il te dit, vous faites des alliances avec l'Égypte. Vous allez mobiliser les chevaux du monde. Vous mobilisez tout ça, vous allez échouer. Je les ferai tous échouer. C'est dans la confiance que se trouve votre force. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu t'apprêtes à faire là, ce n'est pas la peine de te fatiguer. Reste calme. Et il dit, comment? Dieu a promis telle chose, ça doit se passer d'ici un mois. On est déjà le 18, il reste 10 jours. Si je ne sais pas faire comment? Je vais dire, c'est dans le calme et la confiance que tu vois ta force. Dieu n'agit jamais trop tard, jamais trop tôt. La prophétie est en marche. Elle s'accomplira forcément. Ce que la bouche de Dieu a dit, sa main est capable de l'accomplir. Point final. Ça vient quand tu connais. Si tu ne connais pas, il va te parler comment? Vous devez, à travers la Bible, à travers ses livres, à travers les enseignements, essayer de retenir un minimum de l'ossature globale de la Bible. C'est important pour que le Saint-Esprit soit capable de vous parler. Et quand vous avez des problèmes, allez sur Internet, prenez des trucs, des logiciels, il y a des logiciels en ligne, par exemple des Bibles en ligne qu'on sort, rentrez votre problème. Mais toujours dans une recherche chrétienne, recherche biblique. Par exemple, vous avez un problème d'argent, mettez prospérité Bible, mettez prospérité chrétienne, mais c'est que je dis de l'argent. Rentrez des choses comme ça sur Internet. Vous allez être surpris de voir les extraits bibliques, ça va vous sortir avec les commentaires, les analyses. Vous allez être rapidement édifié. On peut faire une grande recherche biblique, une étude biblique sur un sujet en quelques minutes sur Internet. Parce que fouiller la Bible, lire les références, aller à telle page, revenir à telle page, c'est compliqué. Aujourd'hui, la technologie permet, sans bouger sur son ordinateur, rapidement de voir les différents liens, de voir ça, ça ne vaut rien, ça, ça vaut... Et autre chose, quand vous lisez des choses, ayez du discernement. Tout ce qui est écrit sur la Bible n'est pas vrai. Quand vous lisez des choses bibliques, il y a des choses écrites par les catholiques, il y a des choses écrites par les évangéliques. Parmi les évangéliques, il y a des gens qui savent de quoi ils parlent, des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et il y a plein de petits escrocs qui écrivent des choses, ils sont prophètes des nations, magiciens, des choses comme ça. Il faut faire attention. Donc quand vous lisez les choses, demandez aussi au Saint-Esprit de vous guider, de vous donner la conviction de ce qui est vrai, de vous donner le discernement de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Mais dans tous les cas, moi aujourd'hui quand j'ai un problème, je ne pose des questions qu'à une seule chose, la Bible, sous une forme ou une autre. Je ne vois pas quel problème je peux avoir aujourd'hui dans la solution soit ailleurs qu'en Dieu. Quel problème? Qui d'entre vous connaît un problème qui n'est pas traité dans la Bible? Qu'il me dise. Qui? Quel problème quelqu'un pense avoir ici? Ou quelqu'un connaît quelqu'un qui a, qui n'est pas dans la Bible? Prenez le temps d'y penser. Il y a tout. Quel problème vous connaissez quelqu'un qui a un problème qui n'est pas traité dans la Bible? Cherchez. Et si la sagesse s'acquiert comme ça, évidemment, elle peut se partager. Ce que je fais ici tous les mercredis et jeudis, c'est que j'essaie de vous inoculer une petite dose de la sagesse de Dieu. Faisant confiance au Saint-Esprit pour continuer le travail. Et pendant que je vous parle, moi je dis des mots qui, pour certains, sont inspirés directement par lui. Mais lui, quand ça rentre en vous, il continue le travail. On dit d'ailleurs, en fond, il y a une expression qui est un peu le constat de ça, on dit « Et le rôve le nous, nous mettons, et il y a retourné vous goûter. » Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on peut donner une petite dose de quelque chose à quelqu'un. Mais même les païens reconnaissent que quelque chose en lui se produit et transforme ce quelque chose de partiel en quelque chose de plus grand, de complet. Ce quelque chose là, c'est le Saint-Esprit. Mais il faut le connaître. Quand on dit à bon vin, si tu n'as pas de culture générale, tu peux répondre pour une enseigne. Mais si tu connais le dicton, en garde, il dit à bon vin, tu sais ce qu'il veut te dire. Et en fond, ça existe. Par exemple, à Abomey, il y a plein de proverbes comme ça. Quand les vieux veulent parler, tu cites le début d'un proverbe, il se tait. Tu sais immédiatement de quoi on parle. Mais si tu ne connais pas ce proverbe, tu vas dire, hein, oui, d'ailleurs, alors qu'il a déjà fini de dire ce qu'il veut dire, les gens malins ont déjà compris ce qu'il veut dire. D'accord? Mais exactement comme si tu vis avec un vieux, tu ne connais pas les proverbes de ta culture, tu ne comprendras pas 90% de ce qu'il dit alors qu'il parle ta langue. Tu te abomines. Il parle tout le temps par métaphore, par allusion, par proverbe. Donc si tu ne sais pas le proverbe dont il parle, tu ne sauras pas de quoi il parle. C'est pareil avec la parole de Dieu. Tu ne connais pas sa parole, tu ne peux pas discuter avec le Saint-Esprit. Donc oui, on peut partager, on doit partager la sagesse. Évangéliser les gens, c'est les inviter à la source de la sagesse. Être sage, est-ce que c'est obéir à ses parents? Oui, évidemment. Le fait d'obéir à ses parents est forcément une partie de la sagesse. D'ailleurs, dans les vérités qui font la sagesse, l'un des commandements les plus importants, c'est « Honore ton père et ta mère pour avoir des jours heureux sur terre. » Donc, ça fait partie des vérités de Dieu que le fait d'honorer ses parents crée le bonheur. La Bible va jusqu'à dire que si quelqu'un maudit son père ou sa mère, on doit le tuer. Quel que soit ce que ton père t'a fait, si tu le maudis, on doit te tuer. C'est ce que la Bible dit. Donc, de toute évidence, obéir à ses parents, c'est être sage. La sagesse ne se limite pas à obéir à ses parents. Mais c'est sage, ça relève de la sagesse que d'obéir à ses parents. Est-ce que la sagesse est un don de Dieu ou une acquisition? C'est un don de Dieu, mais Dieu ne force personne. Il dit, je me tiens à la porte. Si quelqu'un m'ouvre, je frappe. Il frappe toujours. Si il a permis que vous veniez ici, quand on dit que vous perdiez le chemin, que vous tombiez ici par hasard, la plupart des gens qui sont rentrés ici en venant la première fois ne s'attendaient pas à ce qu'ils ont vu ici. Par curiosité, on dit, bon, je vais aller voir de quoi ces gens-là parlent là-bas. Ça veut dire que Dieu a permis que tout en ne croyant pas, Vous passez par ici. Il a frappé. Maintenant, vous êtes libre de dire, je reste ou je m'en vais. Dieu permet que vous entendiez des choses. Il est en train de frapper à votre porte. Vous êtes libre de dire, je prends ça pour moi, c'est comme ça que je vis désormais, ou de dire, bon, c'est un détail. Tout le monde, personne ne mourra sans que Dieu ne se soit donné la peine de frapper à sa porte. Parce que pour vous reprocher de ne pas avoir accepté son appel, il faut d'abord qu'il vous ait appelé. C'est pour ça que la Bible dit que le monde ne se terminera pas tant que l'évangile n'aura pas été prêché à toutes les nations. Parce que pour aller en enfer, il faut avoir entendu l'appel de Dieu, avoir dit non. Tous les hommes l'entendent. À la télé, dans un livre, dans une émission, à la radio, vous croisez un chrétien. Dieu fera en sorte que plusieurs fois dans chaque vie, vous allez avoir un certain nombre d'appels. Quand Dieu voit maintenant que ça ne vous intéresse pas, il peut vous laisser tranquille. Mais il va d'abord vous appeler. Donc, quand vous êtes sur le chemin de la vérité, vous la méprisez, vous êtes en face du don de Dieu. Mais on n'est pas obligé de l'accepter. Dieu ne force personne. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour toi et ta postérité. Ça veut dire quoi? Dieu donne toujours aux gens le choix. Lui ne te donnera pas la mort, mais Satan s'assure au moins que tu ne manques pas. Donc, Satan garantit la mort, Dieu met la vie. Les deux sont devant toi. Mais Dieu ne dit pas, prends forcément la vie. Il dit, choisis la vie. Si quelqu'un a la mort, c'est qu'il a choisi la mort, parce que Dieu met toujours la vie à côté. Et c'est ça qui est le plus terrible pour toi et ta postérité. Regardez bien, votre choix déterminera la suite de votre... Ouais, les générations après vous seront marquées par votre choix. Quand un chef de famille est chrétien, chrétien sincère, il est impossible que sa femme et ses enfants ne le soient pas. Et il est impossible que ses petits-enfants ne le soient pas. Quand quelqu'un donne vraiment sa vie à Jésus et vit en chrétien, c'est toute sa descendance sur plusieurs générations qui est bénie. Le contraire est vrai, jusqu'à ce que Dieu en sauve. Une histoire de famille où depuis 4, 5, 10 générations, on est maudit, on est malheureux, on ne se marie pas, on est pauvre, on est féticheur, ne peut s'arrêter que quand quelqu'un sort du lot en étant pris par Jésus. Sa destinée arrive à changer. Donc, vous devez savoir que, et c'est ça la vérité de la vie, vos choix ne regardent pas que vous. Si vous choisissez la bonne voie, vos enfants en hériteront. Si vous choisissez la mauvaise part, vos enfants en hériteront. C'est pour ça que vous allez voir la plupart des enfants de pauvres sont pauvres. Et les enfants qui arrivent à sortir du lot, on sent déjà dès leur enfance qu'ils sont rebelles, ils n'acceptent pas de faire comme tout le monde, ils veulent avoir des amis différents. Même quand vous naissez d'un point de vue sociologique, pour sortir d'une famille pauvre, il faut forcément se rebeller quelque part contre le mode de fonctionnement de la famille. On ne peut pas se comporter comme tous ses parents pauvres et devenir riche. Ce n'est pas possible. Choisissez la vie pour vous et votre postérité. Donc, la sagesse est un don de Dieu à accepter. Personne ne peut acquérir la sagesse par sa force, par son intelligence, par sa capacité. Mais une fois que Dieu l'a donnée, ça ne va pas non plus rentrer dans ton cerveau pendant que tu dors. Tu devras la méditer jour et nuit, la lire sans lâche. Faire tout ce que tu peux pour mettre en œuvre ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc, comme presque tout dans la Bible ou dans la vie, la sagesse est une coproduction. Ce n'est pas que nous produisons la sagesse. Dieu la produit, mais nous devons choisir d'aller nous en abreuver, de la mettre en application. C'est la combinaison des deux qui font un homme sage. Dieu ne peut pas forcer quelqu'un de sage, et personne ne peut être sage, que ça plaise ou non à Dieu. Dieu met la sagesse, vous l'acceptez, vous devenez sage. Et on n'est pas sage à vie. Quand on est sage, a priori, on sait des choses. Tant qu'on veille à les appliquer, c'est bon. Mais quelques rares personnes peuvent, par négligence, se faire avoir et tomber dans des erreurs de personnes qui ne sont pas sages. Parfois, elles se reprennent, parfois, ça les entraîne. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes sage que vous avez atteint un niveau où on voit de toute évidence que vous fonctionnez sur la sagesse de Dieu que vous êtes à l'abri. L'homme étant par définition imparfait, une seule chose peut vous couler. C'est le cas de Salomon. Salomon est l'homme considéré comme, par Dieu lui-même, comme étant le plus sage qui n'ait jamais existé. Mais à la fin, ou à un moment de sa vie, Salomon a été déchu. Pourquoi? Parce qu'il y a un des principes de la sagesse qu'il a méprisé. Ne te laisse pas aller aux femmes étrangères. Salomon, comme son père, triste héritage, aimait les femmes. Et Dieu dit, et ça a été toujours très très important pour Dieu, il ne faut pas qu'un enfant de Dieu aille se marier avec un enfant païen. Parce qu'une femme, ça vous nourrit, ça vous influence. Il est très difficile d'être un homme qui aime Dieu, d'avoir une femme qui aime le diable et de rester sur le chemin de Dieu. C'est presque impossible. Et c'est pour ça que Dieu insiste beaucoup pour dire qu'un enfant de Dieu doit fuir à tous les prix le mariage avec une femme ou un homme selon ce qu'il est ou ce qu'elle est, qui n'est pas de Dieu. Si la personne est païenne, donne sincèrement sa vie à Jésus et se transforme, c'est autre chose. Mais voir qu'elle est païenne, qu'elle s'en fout de Dieu, vous vous craignez de vous aller l'épouser, c'est de l'imbécilité. Ou vous n'allez pas vivre longtemps ensemble, ou alors elle va vous entraîner dans le monde. Si vous êtes déjà chrétien, ne vous mariez jamais avec quelqu'un qui n'est pas sincèrement chrétien. Si vous pensez que vous pourrez la convertir, convertissez-la d'abord avant de vous marier. Mais ça ne veut rien dire d'épouser un païen en disant qu'on va finir par le convertir. Si vous êtes déjà marié à un païen, ça c'est autre chose. Je dis de ne pas divorcer. Priez alors et battez-vous pour que son cœur vienne au Seigneur. Mais on ne peut pas être libre et choisir comme par hasard d'aller épouser quelqu'un qui est païen. Parce que Dieu a fait en sorte que les femmes ont toujours une grande influence sur leur mari. Si votre femme sert le diable, elle vous entraînera forcément, consciemment ou inconsciemment, sur le chemin du diable. Et même au niveau des femmes qui sont chrétiennes, c'est Dieu a fait ainsi. Les femmes ont une grande influence sur les hommes. Mais elles sont plus sentimentales. La Bible nous dit, hein, Pierre le dit, attention, les femmes sont le sexe faible, il faut les ménager. Et si Dieu a fait de l'homme le chef de la famille, ce n'est pas par hasard. Toute femme, même si elle est chrétienne, va dans beaucoup de choses chercher à entraîner son mari dans l'erreur. Ce n'est pas méchamment, hein, c'est dans la nature de la femme. Il y a par exemple des choses que tu vas vouloir faire. Ta femme va te dire, non, c'est trop dangereux, il ne faut pas prendre de risques. Alors que Dieu veut que tu fonces. Ta femme ne va jamais accepter que même ma propre femme là, qui est prophète, qui enseigne, il y a des choses que je veux faire, tout que je suis fou. C'est dans la nature de la femme et de la mère que d'avoir trop peur pour son mari ou pour son enfant. Or, pour faire certaines choses de Dieu, vous allez voir Jésus, il a dit à Marie, femme, laisse-moi m'occuper des affaires de mon père. Même Marie, hein, qui a rencontré le Saint-Esprit, l'enfant là, c'est même pas son enfant. Au moins plusieurs fois, Jésus a dû lui dire, laisse-moi un peu m'occuper de mon père, parce que si Marie pouvait empêcher Jésus d'aller à la croix, elle l'aurait fait. À ce moment-là, c'est le cœur de la femme qui parle, ce n'est plus sa raison. Le premier miracle de Jésus, si ça ne tenait qu'à Marie, il l'aurait fait plus tôt. Il a dit non, mon heure n'est pas encore arrivée. Cela veut dire que ce n'est pas que les femmes sont mauvaises. Dans la nature, dans la personnalité, dans la sensibilité d'une femme, il y a qu'elle est faible. Par exemple, quand on dit que Adam a été victime de Ève, c'est vrai, c'est faux. C'est vrai que c'est Ève qui a été corrompue la première. Mais c'est aussi vrai que si Adam avait joué son rôle, il n'aurait pas dû la laisser seule avec Satan jusqu'à ce que Satan la corrompe. Où Ève était, où Adam était, pendant que Satan venait discuter avec sa femme jusqu'à mettre des bêtes dans la tête de sa femme et sa femme l'a corrompue. Alors que Dieu a dit, tu es le chef, tu as l'autorité, occupe-toi de tout. Où il était? Ça veut dire qu'il ne protégeait pas sa femme. Si Satan était un serpent ou un lion, il aurait donc fini de manger sa femme avant qu'il ne vienne. C'est cette négligence d'Adam qui n'a pas assez protégé sa femme, sachant qu'elle est faible, qui lui a valu que sa femme soit corrompue. Et comme c'est comme ça que Dieu a fait, une femme corrompue, à moins d'avoir une grande grâce du Saint-Esprit, va corrompre son mari, il a été corrompu. Donc il a récolté ce qu'il a semé en ne veillant pas suffisamment sur Ève. Donc un homme, quel que soit l'amour qu'il a pour sa femme, doit avoir la sagesse, doit prier le Saint-Esprit de le guider pour pouvoir faire certaines choses, quelle que soit la vie de sa femme. Je ne dis pas de ne pas écouter nos femmes, attention. Dieu a fait de la femme une aide pour l'homme. Et dans beaucoup de cas, c'est encore par la femme, comme Dieu en a fait un complément qui va passer pour nous parler, pour nous conseiller, pour dire attention à tel ami, telle chose, je ne trouve pas ça prudent. Et c'est vrai. Mais c'est tellement vrai que nous finissons par tellement être sensibles à ce que nos femmes font et disent que parfois Satan passe par elles. Comme il est passé par Pierre pour dire Jésus, pour rien au monde, je ne peux pas dire, on va t'amener à la croix. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Ce n'est pas que Pierre n'aime pas Jésus. Ce n'est pas que Pierre est méchant. Mais ce sentimentalisme à ce moment-là vient de Satan. Ça ne vient pas de Dieu. Beaucoup de nos femmes font ce que Pierre a fait à Jésus. Au moment où toi, tu as besoin du courage pour aller au combat, là, tu dis non, c'est trop dangereux, il faut laisser, non. Tu sais, dans la vie, il ne faut pas se créer trop de problèmes. Arrière de moi, Satan devrait dire. Mais on ne peut pas dire Satan à sa femme. On ne peut pas dire arrière de moi, Satan. Mais à ce moment, vous devez prier pour dire Seigneur, si c'est elle qui a raison, donne-moi la conviction. Mais si c'est la chair qui parle, donne-moi la force d'avancer envers et contre tout et convaincre-la que j'ai raison. Ce que je dis là est très très important. Ce n'est pas pour rien que Jésus n'a pas eu de femme, à mon avis. Ce n'est pas pour rien que Paul a refusé. Il dit que si quelqu'un peut, il n'a qu'à prendre. C'est ce que Paul a dit en substance. Ou bien, Paul dit, en tout cas, c'est bon d'avoir une femme. C'est mieux pour lui de rester comme ça. Franchement, je ne pense pas que si Jésus, il a vécu comme chacun, il a été passé dans toutes choses. Mais je ne suis pas sûr que s'il avait une femme, il allait réussir ce parcours de combattant. En tout cas, il s'est débrouillé pour ne pas en avoir. Paul s'est débrouillé pour ne pas en avoir. Vous croyez que Paul allait avoir une femme et on dit, tu vas mourir à Jérusalem? Et il dit, je m'en vais. Sa femme va laisser où il va dire, je m'en vais quand il dit qu'il va mourir là-bas. Vous pensez que la femme d'un prophète va le laisser aller à Jérusalem? Et s'il pense à sa femme, à ses enfants, il ne va jamais aller à Jérusalem. Il ne dirait pas, la mort met un gain, la vie met un gain. Ça là, c'est bon à dire quand on n'a pas de femme. C'est pour ça, vous qui êtes célibataire là, il faut avancer, il faut mettre le turbo sur Dieu. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez faire pour Dieu en célibataire que vous ne pourrez plus faire quand vous serez marié. C'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Il y a des choses qu'on peut faire dans sa vie, des bonnes choses, hein, qu'on peut faire quand on est célibataire, qu'on ne peut plus faire quand on est marié. Donc, vous devez tenir compte de ça. Faire attention à votre conjoint, qui est effectivement une aide que Dieu, femme ou homme, que Dieu a mis à vos côtés pour vous conseiller. mais vous rappelez que le vrai habit est le Saint-Esprit. Et ne pas avoir peur quand le Saint-Esprit vous convainc qu'il faut foncer, de foncer parce que votre conjoint n'est pas d'accord. Oui, tout à fait. Voilà. Et tu vois que ça, souvent, il y a des atros. Il vaut mieux maudire Dieu pour avoir la paix. C'est ça. C'est la constance, hein. Il n'y a rien à faire. Et c'est, le pire, c'est qu'elle donne des conseils tellement logiques. C'est logique, non? Tu as des atros de soucis. Il faut maudire Dieu, on en finit. Est-ce que c'est un bon conseil, ça? Oui.
Comme ça, raison aux prêtres qui ne se marient pas. Les prêtres qui ne se marient pas.
Ça dépend. Mais le problème, c'est quoi? Ce que je reproche aux prêtres, c'est pas de ne pas se marier, c'est d'être hypocrite. Ils disent qu'ils ne se marient pas alors qu'ils ont plus de femmes que tout le monde. S'il ne faut pas se marier pour commencer à courir les filles, les femmes, les veuves dans les couloirs, c'est de l'hypocrisie. Donc, s'ils veulent se marier, qu'ils se marient. S'ils ne veulent pas se marier, qu'ils ne se marient pas. Mais prétendre qu'on ne veut pas se marier parce que c'est politiquement correct dans l'église, alors qu'ils ont tous des copines, je trouve ça malsain. Donc, il y a des gens, prêtres ou pas prêtres, qui ne se marient pas parce qu'ils n'en ont pas envie. On ne leur reproche rien. Mais il ne faut pas dire qu'on est fait. Conclusion, quand quelqu'un voit sa femme aller chez un prêtre, il trouve ça normal, c'est le prêtre. Bon, s'il est Dieu, il trouve ça normal en tout cas. On dit pas que c'est le prêtre. Alors que, bon, ceux qui en savent quelque chose savent que prêtre, c'est pas prêtre. Bon, c'est l'hypocrisie qui pose problème. Le Vatican même a reconnu pédophilie, homosexualité, qu'on sort. C'est ça le problème. C'est pas que. Il y a des pasteurs qui font ça. Il y a des gens de toutes les régions qui font ça. Mais ce qu'on reproche aux catholiques, c'est de prétendre qu'ils n'ont pas besoin de femmes. C'est ça le mensonge qu'il faut arrêter de nous servir. À qui Dieu donne-t-il la sagesse? Aux humbles, aux égoïstes, on a déjà répondu à ça de toute évidence, aux humbles. À ceux qui ont compris qu'ils ne sont rien, à ceux qui ont faim de Dieu, à ceux qui disent franchement, je ne vois pas comment je peux m'en sortir sans Dieu. Viens m'aider sinon je suis foutu. Quand quelqu'un est dans cet état d'esprit-là, Dieu vient toujours lui donner la sagesse. Demandez la sagesse, pourquoi en vain si on demande chaque jour? On en a déjà parlé. Conditions particulières remplies pour bénéficier de la sagesse divine. 1. Connaître Jésus, c'est lui la sagesse, c'est lui la parole. 2. Méditer la parole jour et nuit. 3. Reconnaître l'autorité de la parole. Alors ça, c'est un autre problème. C'est implicite à tout ce que je dis. Mais par exemple, ça, c'est l'un des grands problèmes des fidèles catholiques. Ce n'est pas leur faute. Mais l'Église catholique n'insiste pas suffisamment sur l'autorité de la parole. À l'Église catholique, on enseigne la parole de Dieu comme un fait historique pour la culture générale du chrétien. Moi, j'ai déjà été enseigné dans des églises. Sur invitation des prêtres, je disais la parole de Dieu. Il me disait, oui, mais ça, c'est la théorie. Concrètement, là, qu'est-ce que vous nous conseillez? Et plusieurs, c'est pas un, c'est pas deux. Tu cites la Bible à certains pères catholiques, ils disent, oui, qui a dit ça? Je dis, mais mon père, Dieu. Il dit, où? Il dit, il faut ouvrir la Bible, je vais te montrer. C'est pas normal. J'ai vu un prêtre qui voulait acheter des terrains. Il me dit, il n'a pas l'argent alors qu'il a un grand projet. Je ne dirai pas quel projet, vous saurez de qui je parle. Il dit, mais mon père, si Dieu donne la vision, donne la provision. Il dit, qui a dit ça? Je dis, c'est Dieu. Un autre m'a invité à la fête du travail. Pour faire une conférence pour des pêcheurs sur comment être prospère. J'ai dit, mais on ne va pas chercher loin. C'est parmi les pêcheurs que Jésus a fait les gens les plus prospères. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez pêché toute la nuit. Il dit, c'est pas compliqué. Maintenant, jetez le filet là. Et j'ai dit, mais on a pêché, c'est ce qu'on fait tous les jours. Mais là, c'est moi qui dis de jeter là. Et quand ils ont jeté, on peut tout dire tout ça. Pour être me dire, non, Edgar, c'est pas ça. Je sais que tu es un consultant en stratégie. Dis-nous des stratégies concrètes. Je sais pas. Les trucs de la Bible là, oui, c'est vrai, mais donne-moi du concret. Dis, mon père, qu'est-ce qu'il y a de plus concret que la parole de Dieu? Parce que lui ne voit pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces pécheurs-là, le matin, ne doivent pas aller en se demandant quelle stratégie, quel filet. Ils doivent dire, Seigneur, je fais quoi? Je pêche où? Je fais. C'est-à-dire, si c'est Jésus, si c'est le Saint-Esprit qui guide votre activité professionnelle, qui vous dit quel client prospecter, qui vous dit qui rencontrer, qui vous dit quoi lancer, qui vous dit quel prix faire, qui vous dit qui accepter, qui ne pas accepter, ce que vous faites, ce que tout le monde fait comme vous échoue, si c'est le Saint-Esprit qui vous dit de le faire, ça marchera. Il n'y a aucun autre conseil pour réussir une carrière professionnelle. Il n'y a aucun autre conseil pour réussir une carrière professionnelle. Après, sème, tu récolteras. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. À tes résolutions répondra au succès. Tout est dans la parole de Dieu. Dieu planifie. La création, Dieu ne s'est pas levé pour dire, je crée le monde. Au commencement, il y avait, Dieu fait un état des lieux. Quel est l'état des lieux de votre activité? Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Vous voyez ces paysans-là, ces pêcheurs, des fois ils pêchent tellement de poissons, à la fin de la journée, ils en ont vendu le quart. Ils remettent le reste dans l'eau. J'ai déjà vu des femmes qui jettent les poissons qu'ils ont pêchés dans l'eau le soir. Elles mangent du poisson, ça finit. Elles ne savent pas le fumer, elles ne savent pas le mettre au congélateur. Il y a des gens qui ont besoin de poissons, elles n'en vendent pas, elles remettent à l'eau. Quel est l'état des lieux? C'est pour ça, au commencement, la phrase dans la Genèse, au commencement, faire l'état des lieux. Ensuite, il faut planifier. Il faut régler des problèmes d'étape. Qu'est-ce que Dieu fait le premier jour? Qu'est-ce qu'il fait le deuxième? Qu'est-ce qu'il fait le troisième? Dieu a créé l'homme le cinquième jour. Mais pour créer l'homme le cinquième jour, il a fait des choses les quatre premiers jours. Sans lesquels, il n'aurait pas pu créer l'homme le cinquième jour. Si on crée l'homme le premier jour, il va manger quoi? Il va boire quoi? Il va rester où? Dieu ne crée pas l'homme pour qu'il commence à manquer de nourriture.
Il crée la nourriture de l'homme avant de créer l'homme. Les gens veulent être riches. Ils ne savent pas gérer l'argent. Il y a des paysans dans certaines parties du pays. Quand ils gagnent beaucoup d'argent à certains fervents, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une nouvelle femme, ils achètent une moto et ils engorgent ses filles. Parce que si l'argent vient, vous ne savez pas quoi en faire. Ça devient un sujet de mort. La Bible nous dit par exemple avec Josué, ne prenez pas possession de tout le pays à la fois. Les mauvaises herbes et les animaux sauvages vont vous prendre de dessus dessus. Allez-y progressivement, sinon vous pouvez maîtriser. C'est des conseils pratiques pour réussir dans les affaires. Non, mais dis non, Edgar, dis-nous des choses concrètes. Ça là, c'est la parole de Dieu. Je veux du concret. Il faut reconnaître l'autorité de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas de la philosophie. Les prêtres font comme si la parole de Dieu était de la philosophie. Ce n'est pas de la philosophie. C'est un mode d'emploi pour faire ce que ça dit que ça fait. Pour qui a la foi, pour qui a la patience, pour qui obéit. Il n'y a rien que vous allez trouver quelque part qui marche, qui ne soit dans la Bible. Dites-moi un seul domaine où vous pensez avoir une solution qui n'est pas biblique et qu'elle marche. Tout ce que vous essayez qui n'est pas biblique va se terminer mal. Toujours. Mais vous ne ferez jamais rien de biblique qui se terminera mal. Mais pour y arriver, il faut être patient. On ne peut pas fixer le timing à Dieu. Dieu n'est pas notre serviteur. C'est aussi notre erreur que beaucoup de gens font. Beaucoup de gens font comme si Dieu était leur boy, distributeur de bénédictions. Envoie à manger, envoie le bonbon, envoie le poulet, envoie l'huile rouge. Dieu n'est pas votre domestique pour amener du gaz, manger les bénédictions. Hein. Je crois que ça aussi, beaucoup de gens n'ont pas compris. Comme chez les hommes, c'est les serviteurs qui amènent les choses. Quand les gens prient Dieu, là, ils font comme si c'était leur serviteur. Seigneur, aujourd'hui, j'ai fait, envoie la chose. Ce n'est pas votre domestique, hein, Dieu. C'est votre maître. Donc, en voulant demander quelque chose à Dieu, il faut le faire comme un esclave qui demande à son patron, je sais que je suis ton esclave, je ne mérite rien d'autre que de manger. Et tu vas déjà donner manger aujourd'hui. Donc, je n'ai aucun droit. Mais pardon, est-ce que par ta grâce, par ta gentillesse, je ne serais pas trop demandé de vouloir avoir un morceau de viande en plus? Je n'ai pas dit forcer, hein. C'est juste au cas où ça traînerait à la cuisine. Ou bien, c'est comme ça qu'un esclave doit demander un morceau de viande à son maître. Ah, il n'est pas dit, bon, maître, aujourd'hui, je te remercie pour tout ce que tu as tout fait pour moi. Hein. Bon, il ne faut pas te fâcher, hein. Ce que je veux aujourd'hui, là, c'est un morceau de viande supplémentaire. Est-ce qu'un esclave peut parler comme ça à son maître? Mais c'est comme ça, vous priez. Je te remercie, Seigneur, pour tout. Aujourd'hui, je veux une nouvelle voiture, je veux une nouvelle femme, je veux la promotion au boulot. Si mon salaire peut se multiplier par trois, ce sera pas mal. Merci, Seigneur, parce que tu l'as déjà fait. C'est votre domestique. À toi, vie, amène-moi du sel. Mais non, il faut prendre Dieu pour qui il est. On doit même avoir peur de parler à Dieu. Heureusement qu'il est amour. Donc, il faut aussi prendre un peu Dieu au sérieux, si vous voulez qu'il vous prenne au sérieux. L'endurance, la persévérance est aussi l'une des choses qui vous permettent de bénéficier de la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a des questions? Allons-y.
Merci pour l'exposé. Merci. Je voudrais demander le fait d'oublier.
Oui.
Parce que des fois, quand on lit la parole, moi particulièrement, je n'arrive pas souvent à garder les versets.
Les versets ou la référence des versets?
Enfin, bon, les références. Et aussi des fois, je ne me rappelle pas totalement de ce qui est dit. Est-ce que cela fait de moi quelqu'un qui n'a pas la sagesse? C'est ce que je veux savoir.
Alors, quand je prends mon propre cas, moi, je ne me rappelle même pas de 10 références de versets. Vous pouvez pas, tout ce que je dis là, si vous me demandez quel verset je vais chercher, je vais vous dire. Mais moi, mon cerveau ne retient pas les numéros de versets. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est comme quand je faisais la philosophie, j'étais très fort dans la compréhension des choses et leur maîtrise, leur utilisation. Mais mon cerveau a toujours été réfractaire à retenir les références. Je ne sais pas pourquoi. Chacun est fait comme Dieu l'a fait. Donc, moi, par exemple, je suis un bon exemple. Quelqu'un qui ne connaît pas, je ne peux pas vous dire que Dieu a dit dans tel verset telle chose. Ce n'est pas mon boulot. Si je te dis trop, c'est dans quel livre? Mais aujourd'hui, dans tous les téléphones, dans tout mon ordinateur, dans ma tablette, partout, si je veux trouver la référence de quelque chose, je la trouve. Ce que moi, je sais, c'est que ce que vous comprenez, vous le retenez sans effort. Pour retenir un verset, je parle du sens du verset, du contenu du verset. Je peux ne pas me rappeler parfois au mot près ce que le verset dit. Mais quand j'ai compris ce que le verset dit, je n'ai pas besoin de le bûcher, ça reste dans ma tête. Ce qu'on a compris reste forcément dans une tête. Quand votre maman vous apprend à faire la cuisine, il n'y a pas de cahier, il n'y a pas de mémorisation. Mais quand ce qu'elle fait est logique, vous retenez que c'est comme ça, on fait parce que c'est logique, sans effort. Je veux dire par là qu'il ne faut pas chercher mécaniquement à bûcher la parole de Dieu. En disant ça, c'est dans tel verset, ça, c'est dans tel livre, ils ont dit tel mot, non. Mais quand vous prenez un verset, cherchez à comprendre ce que ça veut dire. À vraiment bien comprendre ce que ça veut dire. Quand vous comprenez ce que veut dire le verset, vous pouvez ne plus vous rappeler où vous l'avez trouvé, dans quel livre, dans quel passage, mais vous vous rappellerez que Dieu a dit ça. Et c'est le plus important. Ce qui sauve, c'est de savoir ce que Dieu a dit. Ce n'est pas de savoir où il a dit, dans quel verset il a dit, avec quel numéro il a dit. Si Dieu vous donne la grâce de retenir les numéros, tant mieux, retenez-les. Mais ne vous sentez pas malheureux de ne pas retenir les numéros. Le plus important, c'est de comprendre le contenu de la parole de Dieu, de comprendre l'esprit de la parole de Dieu. D'autres questions?
Ici.
Oui.
Je suis d'accord avec vous, le fait que vous avez dit que tout ce qu'on fait et ça ne vient pas de Dieu est souvent suivi de chagrin.
Est toujours suivi de chagrin.
Maintenant, voilà, c'est déjà fait. Que faire?
Alors, il y a deux catégories de choses qui sont faites. Il y a des choses qu'on fait et qu'on refait. Il y a des choses qui sont répétitives. Une manière de faire les choses courantes. Naturellement, il faut arrêter de les faire. Il y a des choses qu'on a déjà semées. Si c'est possible de prier pour que Dieu brûle les semences en terre, essayez. Parfois ça marche, parfois c'est trop tard. Comme avec David a dit, tu ne mourras pas, mais l'épée ne s'éloignera plus jamais de ta maison. Donc, dans certains cas, en se repentant et en faisant sincèrement l'effort d'arrêter, Dieu va enlever carrément la conséquence. Comme il va dire, j'oublie tout ce que tu as fait comme péché, je ne m'en souviendrai plus. Mais il y a des choses pour lesquelles, et Dieu est souverain, c'est lui qui choisit, il va dire, oui, je te pardonne. Tu aurais dû mourir, mais tu ne mourras pas. Tu aurais dû avoir tel châtiment, tu n'auras pas. Mais il y a telles conséquences qui sont là, il va falloir que tu les gères. Dans ce cas, il faut prier pour demander à Dieu la grâce et la force de le porter. Parce que dans la vie, il y a des choses qu'on prie pour ne pas avoir. Mais parfois, Dieu nous fait la grâce, non pas de ne pas les avoir, mais d'avoir la force de les avoir et de ne pas crouler là-dessus. C'est pour ça qu'il dit d'ailleurs que Dieu ne vous donnera jamais un fardeau qui soit plus que vous ne pouvez en supporter. Si Dieu donne à quelqu'un ou Dieu laisse quelqu'un prendre un coup, c'est toujours parce qu'il s'est assuré que la personne peut prendre le coup là, ne pas tomber. Ça va le faire tanguer, ça va le secouer, ça va lui apprendre le son. Mais le coup ne le tuera pas. C'est comme un père. Un père ne frappe jamais son enfant, à moins qu'il soit fou, dans le but de le tuer. Il le frappe toujours assez sévèrement pour qu'il comprenne, mais jamais tellement qu'il risque de mourir ou d'aller à l'hôpital. Si c'est un père normal. C'est un peu ça. Et on ne confie pas à un enfant de 1 an de prendre une bassine avec 2 tonnes de maïs dedans. On s'assure toujours, en tant que parent responsable, de ne pas faire porter un enfant un fardeau, une épreuve qui dépasse son niveau d'expérience. C'est pareil dans la vie. La réaction de Dieu à ce que vous faites dépend aussi de votre âge spirituel. Si un enfant de 1 an dit imbécile à une grande personne, on dit non de moi, et puis à la limite on en rit. Mais si à 10 ans, tu dis imbécile à ta tante, on est censé te corriger proprement. Pourquoi est-ce que dans un cas on te corrige proprement, dans l'autre cas on en rit quasiment? Dans l'autre cas, tu as un âge qui permet de se dire à cet âge, il est normal qu'il n'ait pas encore assimilé ça. Mais à 10 ans, tu n'as plus d'excuses. Il y a des choses que vous pouvez faire quand vous êtes païen, Dieu ne frappe pas. Si vous les faites en étant chrétien, il ne vous frappe pas. Il y a des choses que vous pouvez faire quand vous êtes jeune chrétien, vous ne connaissez pas encore certaines choses, et Dieu laisse passer. Vous les faites aujourd'hui, il frappera. Il y a des péchés que vous faisiez en vous disant, c'est pas grave, Dieu pardonne. Il pardonnait effectivement. Mais maintenant qu'il sait que vous avez compris qu'il ne pardonne pas tout, vous les faites, il frappera. Parce qu'il sait que vous avez atteint un niveau où on n'est plus censé accepter ça là de vous. Même si on ne va pas vous tuer, la sanction sera proportionnée à votre âge spirituel. Dans tous les cas, quel que soit ce qu'on fait de mauvais, il faut se repentir. Il faut demander pardon. Il faut arrêter de le faire. Si possible que Dieu ne laisse pas trop de conséquences, quand il laisse les conséquences, lui demander la force de supporter les conséquences. C'est parfois aussi important que de ne pas avoir des problèmes. Quand Dieu vous donne un problème et qu'il vous aide à vivre avec le problème, il y a des gens qui ont plus de problèmes que vous, mais vous les voyez sont plus heureux que vous. La différence, ce n'est pas leur problème. C'est la capacité que Dieu leur a donné de vivre avec les problèmes. Il y a des gens qui ont des petits problèmes, vous les voyez, ils sont déjà maigres, on a l'impression qu'ils sont malades depuis 10 ans. Un souci d'une nuit, vous voyez, des gens, ils maigrissent. Ils ont un souci pendant une nuit, ils maigrissent. Il y a des gens qui digèrent 100 fois ce souci, là, ils sont en train de sourire. Quand ils te parlent de ce problème, ils disent, ah, et tu es heureux comme ça tous les jours. Ils disent, laisse. Ça veut dire qu'en tant que Dieu a travaillé dans sa vie, il a appris à porter des poids lourds en termes de problèmes. Donc, on ne demande pas toujours à Dieu de ne pas avoir de problème. On doit parfois demander à Dieu, si le problème ne veut pas partir, nous donnez-moi la force de le porter. Et croyez-moi, c'est là où, par exemple, Paul dit, Dieu a mis une écharpe dans ma peau. J'ai prié plus de 3 fois pour qu'il enlève. Mais Dieu m'a dit non, ma grâce te suffit. Paul nous révèle là que même pour lui, le grand apôtre, l'homme des miracles, l'homme qui passe simplement son homme guérit les gens, il y a des choses qu'il a demandé à Dieu. Dieu dit ça, je ne te donne pas. Mais ne t'inquiète pas, ma grâce te suffit. Ma grâce est là pour éviter que ça t'écrase. Mais ça reste là. Parfois, c'est pour nous canaliser. Parfois, c'est pour nous discipliner. Parce que, écoutez, un homme qui n'a pas de limite devient dangereux. Par exemple, moi, il y a des fois où j'ai des problèmes d'argent et je suis convaincu que c'est Dieu qui les permet. Parce que quand je prends du recul, moi, j'essaie en train de me mettre à la place de Dieu. Quand je prends du recul, je vois certaines choses qui passent dans ma tête. Si j'avais l'argent, il y a certainement des choses que je ferais tout de suite. Mais si Dieu sait que je ne dois pas les faire tout de suite, qui me les a mis à cœur pour que je m'y prépare, mais que ce n'est pas le bon moment, me connaissant, sachant que si j'en ai les moyens, rien ne peut m'empêcher que dans un mois, ce ne soit pas là. Il peut m'empêcher d'avoir les moyens simplement parce qu'il sait que c'est la seule manière de tenir ce petit-là. Dieu vous connaissant va parfois laisser des écharpes dans votre peau simplement pour vous discipliner. C'est comme un cheval. Des fois, on retient la corde, pas parce qu'on ne veut pas la lui donner, parce qu'on sait que si on laisse, il va aller trop vite. Et Dieu permet ces épreuves-là. Il y a des gens que Dieu rend malades juste pour briser leur orgueil. Il y a des gens que Dieu rend pauvres pour leur permettre. Par exemple, quand vous avez été pauvre, vous avez une compassion particulière pour les pauvres. Celui qui n'a jamais été pauvre ne peut pas comprendre un pauvre. Celui qui n'a jamais été malade pendant un an, je peux aller prier pour un malade. Mais je ne vais jamais avoir la compassion et la ferveur de prière que j'aurais si moi-même j'ai été malade pendant un an et que je sais ce que ça veut dire. Celui qui n'a jamais eu de problème de couple, quand quelqu'un, par exemple, vient te marier et il voit quelqu'un qui pose un problème de couple, il va quasiment se moquer de lui. Oh, toi, c'est parce que tu n'aimes pas ta femme, sortir, aller se voir à la piscine, ça va aller mieux. Mais quand tu as vécu ça, quand quelqu'un te pose un problème de couple, tu imagines déjà tout ce qu'il vit. Tu as pitié de lui. Tu ne le traiteras jamais, tu ne prieras jamais pour lui, tu ne le prendras jamais au sérieux comme quelqu'un qui n'a jamais eu de problème de couple. Et c'est pour ça que Dieu dit qu'il y a des blessures que nous avons, des épreuves que nous subissons, afin que notre vie porte des fruits, que ce soit une solution pour les autres. Donc il y a des choses qui vont vous arriver dans tous ces cas-là. Mais le plus important, je crois, c'est que Dieu nous donne la grâce de les traverser. Si vous avez d'autres questions, oui?
Oui, toujours par rapport à la première question.
Oui?
Oui, je préfère, ça me plaît bien de poser la situation exacte pour que vous puisqu'il y a trop de solutions là maintenant. Mais je ne sais pas, j'ai entendu seulement, mais je ne me retrouve pas. En fait, j'ai pendant un bon moment envisagé faire quelque chose à un endroit donné. Il y a personne n'a rien fait là. Donc, je faisais partie des premières personnes qui se sont rapprochées de la mairie pour avoir l'emplacement. Alors, j'étais avec un douanier, il y a aussi un douanier qui voulait me faire truc là et j'ai utilisé mes relations que j'ai et finalement j'ai eu l'emplacement. J'ai érigé la chose là et c'est là maintenant à présent. Mais j'ai compris que depuis, ça fait plus d'un an maintenant, mais je n'arrive pas à exploiter parce que j'ai pas l'électricité. J'ai tout fait pour avoir l'électricité, mais je suis bloqué partout. Des côtés, les relations, j'ai tout fait, mais on m'a demandé que je dois dépenser pour avoir tout là, je vais dépenser un million et quelques. J'ai dit, bon, d'accord, je prends l'engagement, je vais dépenser les 1 million et quelques là. Et on commence, le devis ne sort jamais. Une dame qui est à côté me dit, bon, d'accord, moi, mes enfants sont là et j'aurai l'électricité bientôt, je vais t'en donner. Quelques jours après, je vais voir la dame, elle me dit, mes enfants ont dit non, je ne comprends pas.
Alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas?
C'est que pourquoi ça se passe comme ça? C'est bloqué.
Comment vous voulez que Dieu s'y prenne pour vous dire que ce n'est pas bon à faire? J'ai déjà expliqué ici que Dieu se définit comme le bon berger. D'accord? Jésus définit, Dieu se définit lui-même comme un bon berger. Un bon berger, c'est toujours un berger qui a un bâton. Vous ne verrez jamais un vrai berger sans bâton. Et qu'est-ce que le berger fait de son bâton? Il aiguillonne le troupeau. Ce qu'on appelle aiguillonner, c'est quoi? Quand le troupeau est en train d'avancer, parfois le berger peut crier à droite, par exemple. Parfois le troupeau, entendant la voix du berger, change de direction. Parfait. Parfois il a beau crier, le troupeau ne change pas la voix, ne change pas de direction, par exemple ne va pas à droite. D'accord? Par exemple, prend le chemin de la gauche. Qu'est-ce que le berger fait? Avec son bâton, il va bloquer le chemin à gauche pour que le troupeau ne passe pas par là. Le troupeau veut aller devant, il va aller à l'avant pour bloquer l'avant. Quand le berger va ainsi bloquer chacune des directions, le troupeau va finir par prendre la seule direction qui n'a pas bloqué. Ce qui se passe dans votre cas, c'est quoi? C'est que manifestement, Dieu vous aime. Et il va le faire jusqu'à ce qu'il soit fatigué de le faire. Vous avez certainement voulu faire quelque chose que Dieu ne veut pas. Ça peut être quelque chose d'important, mais peut-être pas maintenant, ou qu'il ne veut simplement pas. C'est sûr qu'il vous a donné des signes que ce n'est pas à faire. Votre logique humaine a été trop têtue. Vous avez persisté en forçant chaque étape pour avancer. Mais Dieu persiste à essayer de vous barrer le chemin pour vous dire ce n'est pas une direction à prendre. Et si vous regardez bien, les choses que vous allez essayer ou que vous avez fait par le passé pour en arriver là, si vous fouillez bien dedans, il n'y aura que des péchés. C'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire que chaque fois qu'une situation pour se débloquer ne peut se débloquer qu'en violant la parole de Dieu, c'est que Dieu ne veut pas qu'on avance. Si tu es obligé de corrompre un fonctionnaire pour avoir un service, ça veut dire que c'est Satan qui a débloqué ton problème. Je ne dis pas que quelqu'un te rend un service, tu lui fais un cadeau, c'est différent. Mais si quelque chose est interdit et que tu dois le faire parce que tu as acheté quelqu'un, là c'est de la corruption, ça veut dire que tu as franchi un barrage, non pas avec l'aide de Dieu, mais avec l'aide de Satan. Si tu es parti t'endetter pour faire quelque chose, Dieu dit qu'il ne faut pas s'endetter, que la dette est un serpent, que ceux qui marchent par la foi prêteront aux nations mais n'en prêteront pas. Ceux qui marchent par la foi, si Dieu veut que tu fasses quelque chose, il t'en donnera toujours les moyens. Puisqu'il dit, et chaque jour, je suis capable de faire venir à vous toutes sortes de bénédictions de grâce. De sorte que, quel que soit le besoin, ce dont vous avez besoin, parce que vous voulez, si Dieu sait que tu as vraiment besoin de quelque chose, tous les jours, quel que soit ce dont tu as vraiment besoin, de son point de vue, il fait venir à toi toutes sortes de bénédictions de grâce, de sorte que tu ne manques jamais de rien. Et qu'en plus, tu aies le surplus pour faire de bonnes œuvres. Cela veut dire que, si tu as un besoin qui est validé par Dieu, et que tu lui demandes d'ouvrir la porte, il te donnera les moyens d'avancer. Si tu es devant quelque chose que tu crois être un besoin validé par Dieu, que Dieu ne te donne pas les moyens, c'est qu'il ne veut pas que tu avances. Ne bouge pas tant qu'il n'a pas envoyé les moyens. Si tu vas t'endetter alors qu'il a dit de ne pas s'endetter, c'est que là tu es rentré dans le système de Satan pour avancer. Ce qui vient, c'est Satan qui ne répondra pas à Dieu. Tu vas me dire ce que je veux dire. Si tu avais donné une parole à quelqu'un, on dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Que pour avancer, tu es obligé de mentir ou de renier une de tes paroles. C'est-à-dire, quand on veut forcer les choses humainement, le signe qui, moi, me permet de le savoir, c'est que le forcing n'est possible qu'en désobéissant à Dieu. C'est des désobéissances qu'on prend pour de la stratégie, de la dynamique, de la débrouillardise, de l'intelligence, du génie. Satan est très fort. Il maquille le péché par différents mots, système D, intelligence, pragmatisme, génie, agilité. Il est très fort. Moi-même, je suis fort en ça. Mais, quand tu connais Dieu, tu repères que derrière ces choses, je ne dis pas qu'en Dieu, on ne peut pas être débrouillard. Quand on veut forcer, on se dit, est-ce que ça là, ça ne viole pas une loi de Dieu? Si oui, je m'arrête. Dieu ne peut pas vouloir quelque chose et t'empêcher de l'avoir et ne te permettre de l'avoir que par un péché. Si tu veux faire quelque chose qui n'avance pas et qui ne peut pas avancer sans péché, c'est qu'il ne veut pas. Il faut te retirer de cette chose le plus rapidement possible. Parce que soit il ne veut pas, soit il ne le veut pas maintenant. Si tu forces, surtout après ce que je viens de dire, il se dira, maintenant, il ne peut plus dire qu'il n'a pas compris. Et il va te montrer peut-être ce qu'il essaie de t'éviter depuis. C'est comme ça que ça marche. Donc, manifestement, Dieu ne veut pas. Et quand l'heure viendra pour que tu le fasses, tu seras en train de dormir, ça va se faire, que ça te plaise ou non. C'est dans le calme et la confiance que se trouve votre force. Pas dans le forcing, je suis prêt à n'importe quoi, quel que soit le prix, j'avancerai. Oui?
Par le passé, je sais que question d'entreprise ou d'économie, il y a toujours de prêts. C'est-à-dire, pour aller dans une entreprise ou pour aller dans une activité commerciale, les gens font recours aux prêts. Sinon que, de façon précise, il y a des réalisations qui ont été à la base de prêts et qui se sont effectivement fructifiées, qui ont donné un résultat. Alors, actuellement, moi, je voudrais savoir, au vu de tout ce qu'on nous a enseigné sur le plan biblique, quelle est la position de la Bible ou votre position par rapport à ces genres de démarches dans le cadre économique?
Je n'ai pas de position. Ma position ne compte pour rien. Je vois, c'est ça que j'essaie de développer chez vous, qu'il est écrit qu'une dette est un serpent venimeux, que quand vous devez de l'argent à quelqu'un, vous êtes son esclave. Et que si vous marchez par la foi, vous n'êtes pas censé être endetté, c'est vous qui êtes censé prêter aux gens. Donc, je n'ai pas à avoir de position, j'obéis. Ce n'est pas facile. Dans ma propre activité tous les jours, c'est un défi que j'essaie de relever. Je l'ai relevé dans une certaine mesure. Il y a des mesures dans lesquelles je ne suis pas encore parvenu à les relever. Mais je sais que c'est possible puisque j'ai fait un grand pas sur ce chemin-là. Il y a beaucoup d'occasions que j'ai eues ces derniers mois, ces dernières années, de faire des prêts que je n'ai pas fait, mais qui finalement n'ont pas été nécessaires. Disons qu'aujourd'hui, je ne prête plus d'argent. La seule chose que je n'ai pas encore pu maîtriser, et ça fait partie de mes prières au Seigneur pour mieux comprendre, c'est que je ne vais plus jamais demander à personne de me prêter de l'argent pour faire quelque chose. Mais quand j'ai décidé de faire ça, un autre phénomène se multiplie. Je ne sais pas si ça vient de Dieu ou si ça vient du diable. Je lui demande toujours. C'est le phénomène qui fait que, par exemple, au moment où j'ai besoin, par exemple, de 1 million pour faire quelque chose, je n'ai pas l'argent et je décide que je ne vais pas le prêter parce que Dieu dit que s'il veut me donner, il me donnera. Je n'irai demander à personne de me prêter de l'argent. D'accord? Et je dis, je ne le prêterai pas. Je suis là. Je ne sais pas si c'est Dieu qui permet ou c'est le diable qui permet que quelqu'un qui veut, par exemple, acheter un terrain, je donne un exemple, m'amène exactement 1 million. Je sais que je peux acheter son terrain et lui donner immédiatement. Je sais que un processus d'acquisition de terrain peut prendre facilement 1 mois, 2 mois. Il m'a remis son argent, je sais qu'il aura son terrain, mais que je le paye aujourd'hui ou dans une semaine, ça ne change rien. Je résiste, je résiste, je n'ai pas envie de prendre son argent pour régler le problème, mais tout me contraint à utiliser son argent pour régler le problème. Ayant la foi qu'avant la une semaine, je vais avoir l'argent. Généralement, ça arrive. Jusque-là, c'est toujours arrivé. Donc, l'argent de quelque chose sert à quelque chose d'autre. C'est comme si je refuse d'aller prêter l'argent Mais Dieu permet que l'argent d'autres choses vienne régler mes problèmes. Je me dis, mais comment je vais faire? Parce que je considère personnellement que c'est être endetté que d'utiliser l'argent quelque chose pour faire autre chose. Mais en même temps, quelque chose me dit, mais c'est une manière aussi pour Dieu de t'envoyer toujours le nécessaire. Je dis, oui, mais comment je vais faire demain? Et la chose me répond, mais ne t'inquiète pas, du lendemain, le lendemain se suffira à lui-même. Mais je réponds, mais j'ai quand même pris l'argent de quelqu'un pour faire autre chose. Est-ce que ça, c'est normal? Là, je vous expose, par exemple, un de mes débats internes de foi. Donc, moi, j'ai fini l'étape. Vous ne me verrez plus jamais dire à quelqu'un, passe-moi 5 francs. Si je dois mourir de faim, je buvrai de l'eau. Il doit certainement avoir quelque part où je peux demander à une maison, donnez-moi de l'eau. Mais moi, je ne demanderai plus jamais à quelqu'un de me prêter l'argent pour faire quelque chose. Parce que je sais maintenant suffisamment que quand Dieu veut que je fasse quelque chose, il sait se débrouiller pour que j'ai l'argent. Si je veux faire quelque chose qui coûte 10 millions et me donne 1 million, je vois comment on peut faire la chose dans une petite proportion avec 1 million, je le fais. Ça veut généralement dire qu'il ne veut pas que je gaspille l'argent. Et comme je vous le dis toujours, j'ai lancé Global Service Immobilier après avoir échoué un prêt. J'ai demandé un prêt, 5 millions ne m'a pas fait et j'ai reçu la révélation de vendre mon dernier terrain que j'ai vendu. Mais en vendant ce terrain, j'ai gagné 3 fois son prix d'achat ou 4 fois son prix d'achat. C'était surnaturel. Et c'est comme ça que j'ai lancé l'immobilier. Donc, c'est l'obéissance au refus de prêter ou pas plutôt. J'ai voulu prêter parce que je doutais encore. Dieu m'a bloqué. Mais heureusement, j'ai compris rapidement que c'était un blocage. Je n'ai pas forcé. J'ai dit, fais tellement qu'il ne veut vraiment pas. Je te rends grâce, Seigneur. Dès que j'ai fait ça, cela est devenu une bénédiction qui a lancé Global Immobilier aujourd'hui. J'ai vendu un terrain que j'avais acheté 2 ans plus tôt à 3 millions. Je l'ai vendu à 13 millions et quelques. Et si j'avais patienté, j'aurais peut-être vendu à 17 millions. 2 ans, sans aucune dépense. Dieu a pourvu largement au centuple. Je sais donc depuis que je ne m'endette plus. Ça, c'est clair. Mais il y a des fois, je n'ai pas envie de m'endetter. Un problème est là. Et je ne sais pas, je n'ose pas dire Dieu. Mais la chose m'envoie l'argent de quelqu'un d'autre. Et toujours dans des conditions où je sais que je peux l'utiliser rapidement pendant quelques jours. Je le fais depuis plus d'un an. Autre chose, c'est-à-dire quand celui-là va être prêt, l'argent de quelqu'un arrive, je le mets dedans. Ça fait que, d'un point de vue comptable, j'ai toujours virtuellement des dettes par rapport à des gens. Mais en réalité, il y a peu de gens qui peuvent dire que je leur dois de l'argent. J'en suis à ce point. Est-ce normal ou pas? Je ne sais pas. Moi, j'ai bien envie du jour où je ne devrais rien à personne, je serai en surplus. Mais quand j'écoute certains grands hommes de Dieu qui ont atteint des ministères où ils dépensent, je connais quelqu'un qui dépense 3 milliards par jour en dépenses pour son ministère. Vous imaginez ça, que Dieu lui donne 90 milliards de francs CFA par mois qui passent dans l'œuvre du Seigneur. Il a des milliers de gens, de missionnaires dans le monde qu'il paye, des camps où c'est lui qui nourrit des enfants, des écoles qui financent. C'est pas compliqué de dépenser 3 milliards par jour, c'est pas compliqué. Vous êtes caquet, c'est pas compliqué. Si tu prends l'engagement de nourrir quelques enfants orphelins, quelques déplacés de guerre, des trucs comme ça, tu t'occupes des prisons, c'est vite fait. Et il y a des hommes de Dieu qui ont reçu cette grâce. Mais c'est pas ça le plus intéressant de l'histoire. Le plus intéressant de l'histoire, c'est que ce gars qui dépense 3 milliards par jour, donc pour vous et moi, il est riche. Je le vois se plaindre que franchement, il pleure toutes les nuits, demande au Seigneur de l'aider. Parce que là où il dépense 3 milliards, il y a peut-être des besoins pour 4 milliards. Donc il est tout le temps obligé de faire des choses, d'avoir des factures impayées, de jongler. Dieu pourvoit tous les jours, mais il est toujours en train de jongler. C'est-à-dire que même quand il est en train de dépenser 3 milliards par jour, 90 milliards par mois, ce qu'il dépense dépasse toujours ce qu'il gagne. Donc je ne sais pas. Quand je dis ça, le truc me dit, oui, mais quand Jésus a voulu multiplier les pains, il a bien fallu qu'il prenne les 2 pains et les 5 poissons de quelqu'un. Est-ce que c'est ça? Je n'en sais rien. Un autre truc me dit, mais quand Jésus voulait payer ses impôts, à un moment, il n'avait pas l'argent. Il a bien dû faire une manœuvre, va me chercher. Bref, j'avoue que ce n'est pas clair dans ma tête. Personne ne sait tout, je ne sais pas tout. Mais je suis dans ce combat. Je veux relever le défi d'obéir à Dieu qui dit que je ne dois pas prêter. Donc, je ne prends plus l'initiative de prêter. Mais d'un point de vue comptable, j'ai un passif. Ce passif est-il biblique ou pas? Je ne sais pas. Si quelqu'un a la réponse, moi aussi je suis candidat à la réponse. Mais j'ai lu beaucoup d'histoires de grands hommes de Dieu, des gens qui ont créé des orphelinats et qu'on sort. C'est à croire qu'il y a toujours un peu de ces jonglages tout le temps. Et c'est ce qu'on appelle marcher par la foi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où vous dites tout est accompli. C'est Jésus qui peut s'offrir ce luxe-là. Vous serez, comme Paul, en train de courir la course, de poursuivre le but, oubliant ce qui est derrière, regardant ce qui est devant, faisant de votre mieux. Mais je crois que Dieu regarde le cœur qui fait de son mieux au-delà de tout. C'est, en tout cas, c'est une question que je me pose. Je ne sais pas. Et chacun de vous, comme vous voyez, la sagesse de Dieu ne descendra pas un jour dans votre tête. Un jour, certainement, je vais avoir une réponse très claire à ce cas-là. Et des gens vont avoir des problèmes, je pourrais leur dire, voilà exactement ce qu'il faut. Il y a des questions sur lesquelles je suis clair, affirmatif aujourd'hui. Je n'ai pas toujours été affirmatif là-dessus. J'ai traversé moi-même des moments. Comme à un moment, je faisais beaucoup d'économies. J'avais toujours un compte d'épargne sur lequel il y avait des économies. Mais Dieu a pris quelques jours pour me faire arrêter de faire des économies. Aujourd'hui, moi, je n'ai plus aucune économie. Je ne peux pas vous sortir 1 million d'économies.
Mais je dépense probablement au quotidien plus que vous tous. C'est-à-dire, si ça ne vous arrive pas, vous ne comprendrez pas. Quelqu'un peut dépenser 10 millions par jour, mais être plus pauvre que vous tous. Je me rappelle une fois, une dame m'a demandé de l'aider, elle a un grand problème. J'ai dit, quel est ton problème? Elle dit qu'elle doit à beaucoup de personnes. Je dis combien? 250 000. Toutes ses dettes, c'était à 250 000. Et elle voulait que je la sauve en la lui payant. Je dis, si tu te dis le montant de mes dettes, toi, tu peux tenir debout. C'est toi qui viens me demander de t'aider à payer 250 000 de dettes. Je dis que j'ai 100 millions de dettes. Tu vas faire comment? Donc, tu es plus riche que moi là où tu es. Parce que toi, à 250 000, tu es libre. Moi, il faudrait payer 100 millions pour me libérer. Mais voilà, on va dire que je suis plus riche qu'elle. Et Dieu va vouloir que moi, comme c'est dans mes capacités, je paye ces 250 000. Et Dieu se débrouillera pour trouver des milliardaires qui paieront mes 100 millions. Mais c'est ça la vie perpétuellement. Donc, fuyez autant que cela dépend de vous, fuyez la dette, refusez de vous endetter. Et priez pour que je finisse de faire le parcours avec Dieu. Je reviendrai vous dire comment on fait pour gérer la partie qui reste de la dette. Non, je vous parlais par exemple de mes économies. Mais à un moment, j'avais toujours des économies. Et quand j'ai commencé, parce que Dieu a pris quelques temps pour m'enseigner un certain nombre de règles sur la prospérité financière, à un moment, je me suis rendu compte que il y avait toujours des circonstances qui me faisaient vider tout mon compte. Aïe, mon argent courant fini, j'entame 100 000, 50 000, 200 000, je piège dans mes économies jusqu'au jour où je résiste. Il y a une dépense à faire, je résiste, je ne veux pas dépenser parce qu'il me reste 50 000. Tant que je n'ai pas dépensé 50 000, tout est fermé. Le jour où je sors les 50 000, l'argent rentre. Ça m'a fait ça une fois, je n'ai pas remarqué. Deux fois, je n'ai pas remarqué. Trois fois, j'ai commencé à dire, c'est bizarre cette affaire. J'ai commencé à surveiller. C'était un lien de cause à effet direct. Tant que je ne dépensais pas mon dernier centime, l'argent ne rentrait pas. Et le Saint-Esprit a fini par me dire, j'ai fait ça pour t'apprendre que vous faites vos économies en comptant sur vos économies. Économie tient si je veux. Pourquoi on fait des économies? C'est pour se confier en ces économies. On se sent en sécurité de savoir que l'argent nous attend. Parce qu'on fait comme si Dieu seul n'est pas suffisant pour dormir en paix. On dort en paix quand on sait qu'on a de l'argent qui nous attend. C'est une manière de se moquer de Dieu. Ça veut dire que votre compte d'épargne devient une idole sur laquelle vous fondez votre sécurité. Oubliant que vous pouvez avoir un problème en pleine nuit, la banque est fermée, la caisse d'épargne est fermée, vous allez mourir avant qu'on aille vérifier le compte. Mais oui, si tu as un problème là, tu tombes au CNHU, tu dis j'ai 10 millions dans mon compte, qui va aller vérifier? Tu es sale, tu es dans la boue, tu es plein de sang. Tu crois qu'ils vont te sauver parce que tu as un compte bancaire? C'est aussi comme tous les Benoît, tu fais tout pour paraître sale pour qu'on ne sache pas que tu es riche. Tu vis caché. Et tu vas mourir, peut-être pour une semaine de 25 fois. Ah, maintenant, il y en a mais, alors que tu es millionnaire. Ton compte bancaire ne peut pas te sauver. Mais si Dieu est avec toi, comme le bon samaritain, quelqu'un viendra, ça peut mettre tes ennemis, va te sauver, va tout payer, on va te sauver, tu vas te rétablir. Donc, ce n'est pas pour dire par la suite, des fois je fais des économies, même si j'ai de plus en plus de mal à le faire. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas qu'on fasse des économies. Mais Dieu a utilisé cette histoire-là pour me prouver que la tactique humaine, le défaut humain, qui consiste à mettre des choses de côté pour se sentir en sécurité, est un péché. La seule chose qu'on doit mettre de côté pour se sentir en sécurité, c'est l'amour, c'est la grâce, c'est la foi, c'est l'obéissance à Dieu. Il vaut mieux ne rien avoir, dire rien ne peut m'arriver. Dieu est là. Que de dire, Dieu ou pas Dieu, j'ai quelques millions, ne vous inquiétez pas. Et c'est ça qui tue le monde aujourd'hui. Ils ont atteint un niveau où rien ne leur manque. Regardez aujourd'hui, le plus vil des citoyens européens est plus heureux qu'un roi d'il y a encore 100 ans. Il a tout. Machine à laver, distributeur automatique. Regardez, tout est automatique. C'est à peine qu'il n'y a pas de machine qui nous lave, il y a des machines qui nous massent, il y a des machines qui... Tout est automatique. On est toujours dans le climatiseur, on vit bien, il y a tout aujourd'hui. Essayez de prendre un peu le recul. Si les Béanzins là doivent imaginer notre vie, nous vivons tous comme un roi ne vivrait pas à l'époque de Béanzin. Et je ne suis pas sûr que les Napoléons conservent le confort que nous avons aujourd'hui. Pas du tout. Pour charger un message, il fallait attendre un mois que la personne à l'autre bout de la ville arrive. Aujourd'hui, vous avez un SMS. Mais on ne réalise pas à quel point nous avons tout. Mais on n'est pas heureux. Et moi, Dieu a utilisé cette histoire-là pour me prouver que le bonheur ne tient pas à ce que tu peux mettre de côté. Il n'y a rien en lequel tu peux te confier parmi les hommes et sur la terre. Ce qui te sauvera, c'est de savoir que Dieu ne dort pas. Mais si quelqu'un ne se sent pas rassuré par le fait que Dieu ne dort pas, il a besoin de voir son compte gros pour dormir, il ne dormira jamais. Quand tu comprends ça, Dieu peut te laisser ton compte grossir. Mais quand tu n'as pas compris ça, ton compte gros, ce n'est rien. Et c'est comme la dîme. Pourquoi la dîme est importante au-delà de l'argent qu'on donne? Celui qui n'est pas capable de perdre 10% de ses biens parce qu'il fait confiance à Dieu, ne peut pas faire confiance à Dieu dans un autre domaine. Si tu ne lui fais pas confiance pour lui donner de l'argent en étant sûr que ça reviendra au centuple, pourquoi tu lui feras confiance? Celui qui n'est pas capable de mettre Dieu à l'épaule avec son argent, il ne mettra Dieu à l'épaule sur rien. Parce que Dieu sait que l'argent est la chose la plus sensible pour l'homme. Le jour où vous donnez votre dîme avec joie, vous êtes devenu un homme de grande foi. Parce que vous croyez que ce n'est pas de l'argent jeté. Mais tant que vous avez l'impression, chaque fois que vous donnez votre dîme, que je viens encore de perdre 10%, c'est que vous n'avez encore rien compris de Dieu. On doit être content d'aller donner sa dîme. On doit faire des calculs pour voir, mais donner 10% là, c'est bête, non? Si je donne carrément 30, ça va accélérer le processus de l'enrichissement. Et vous allez voir tous les gens qui ont été loin dans la foi, à un moment, donnent de plus en plus, ils donnent l'essentiel de leur bien à Dieu, ils gardent une partie pour vivre. Regardez bien. Quand on vient dans la foi, on donne péniblement une partie à Dieu. Quand on grandit dans la foi, on donne beaucoup à Dieu, on garde juste ce qu'il faut pour vivre. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est lui qui fournit. On n'a pas besoin d'en garder pour en avoir. Les gens essaient de devenir riches parce qu'ils pensent que c'est eux qui produisent de l'argent et que comme c'est difficile à produire, il faut en mettre de côté. Quand tu comprends que c'est Dieu qui donne l'argent, tu ne te fatigues pas à garder parce que lui il ne se fatigue pas de donner. Tu peux tout dépenser aujourd'hui, il donnera tout demain. J'ai par exemple, c'est ça la sagesse biblique, découvert des versets bibliques par exemple qui disent quand quelqu'un vient te demander de l'argent, si tu en as, ne lui dis pas va et reviens. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset-là. Ne me demandez pas dans quel livre, je n'en sais rien. C'est ce que je disais tout à l'heure, notre soeur. Oui, c'est dans quel livre? Proverbe. Voilà. Oui, ça, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Moi, j'ai des assistants, je pose la question, vous me donnez la référence maintenant. Moi, je sais juste ce que c'est. Ce verset-là m'a appris quelque chose. Quand je l'ai lu, c'est puissant, hein, et moi, ça m'aide beaucoup. Quand dans le monde, tu as l'argent, tu peux avoir 10 millions. Un fournisseur vient, tu dois payer 2 millions. Ça t'énerve de sortir l'argent. Tu as 50 000, ton propriétaire vient, il demande 45 000. Même quand on en dit, on n'en a pas, va, reviens demain. Parce que ça nous énerve de sortir notre argent. La Bible dit que quand tu dois 45 000, on vient te le demander. Si tu l'as, ne dis pas va et reviens. Au début, je trouvais ça bizarre. Mais j'ai commencé à l'appliquer. Et j'ai découvert que c'est un grand secret de prospérité. Un peu, le principe que j'ai dit, c'est comme si Dieu, vous avez des choses dans les mains. Écoutez, comment je vais dire? C'est comme si Dieu est un puits intarissable d'eau. C'est même pas comme. C'est ce qu'il a dit. Oh, merci Seigneur pour ta révélation. Jésus dit, il est le puits, la source d'eau intarissable. D'accord? Et ailleurs, la parole de Dieu nous dit que nous sommes des vases. Que c'est un vase? Il prend l'eau, il sert. Le vase ne fait rien de l'eau lui-même. Si un vase commence à boire de l'eau, bon, au début, une petite quantité, on va dire que c'est pour vieillir, mais au dernier, une certaine quantité, c'est que c'est un vase à problème. Le vase ne prend pas de l'eau pour le boire. Il prend de l'eau pour le servir. Si un vase te prend trop au sérieux, vase en porcelaine, quand vous allez dans la maison, qui vous a déjà pris un vase en porcelaine pour vous donner à boire à vous? Quand un vase a de la valeur, on le met sur la table comme ça, on le regarde vieillir. Personne ne le touche, c'est la poussière qui s'occupe de lui. Jusqu'au jour où la domestique, en voulant balayer, va le casser. Dans son histoire, si on le regarde jusqu'à ce qu'il est cassé. Mais il n'a jamais la joie de servir à quelque chose. C'est le plus beau, c'est le plus joli, c'est le plus orgueilleux des vases. Il ne sert à rien. Mais le vase en plastique, là, ou le vase en argile, on sait que ça ne vaut rien, c'est pas grave, il ne se prend pas au sérieux. On veut prendre de l'eau, on l'appelle. On veut prendre de l'huile, on l'appelle. On veut prendre du soda, on l'appelle. Pour tout rien, on l'appelle. En tout cas, on le touche tous les jours. Si on doit compter la quantité d'eau qui passe dans un gobelet ou dans un vase, ou dans les bols que nous utilisons à la cuisine, regardez la quantité d'eau que ça prend et la quantité d'eau que ça sert. Le problème, c'est quoi? Être béni pour un homme, c'est de voir beaucoup d'argent passer dans ses mains. Hein? Parce que l'homme n'est pas béni parce qu'il garde l'argent. Quel argent vous le gardez? Vous demandez l'argent pour faire quoi? Pour payer? Regardez bien. L'argent qu'on veut là, ce n'est que pour le servir. Hein? Vous voulez payer le loyer? C'est pour donner l'argent au propriétaire. Que tu demandes l'argent du loyer. Tu veux manger? C'est pour payer la vendeuse de riz, plus de l'argent que tu demandes. Regardez bien. Tout l'argent que nous demandons à Dieu ne sert qu'à être donné à quelqu'un. Le problème, c'est que on te prend, tu prends de l'eau. Tu puises dans la source. Les gens ont soif. Tu dis, et je vais vider mon bol maintenant. On prend un peu d'abord. Tant que ton bol n'est pas vide, tu ne peux pas retourner puiser. Il faut servir rapidement les gens. Quand c'est vide, tu peux retourner puiser. Et tu sais rapidement. Celui qui, quand il prend, sait rapidement. Si on doit compter le nombre de litres qui passent en lui dans la journée, il va être beaucoup plus important que celui qui prend, qui regarde. J'ai aussi de l'eau, j'ai de l'eau. Je vais attendre 3 jours pour bien être content du fait que moi-même, j'ai gardé beaucoup d'eau avant de servir les gens. Plus tu traînes à au service ce que tu as pris, moins de l'eau passera en toi. Or, si vous regardez bien, la définition de la richesse, ce n'est pas la quantité d'argent qui reste sur quelqu'un, c'est la quantité d'argent qui passe. Est riche celui qui peut dépenser. Ou bien, dépenser, c'est donner. Donc, celui qui a peur de dépenser, tu dois l'argent à ton employé. L'argent vient, paye-le. Si tu le payes, si tu payes tes fournisseurs, tu payes ceux auxquels tu dois, Dieu est obligé de remplir à nouveau. Et tu payeras d'autres. Plus vite tu les payes, quand c'est là, plus vite il remplira. Mais si tu prends et que tu es trop orgueilleux pour servir, c'est là. Mais plus que là, tu n'as pas. Or, ce qui est là ne te suffira jamais. Il vaut mieux prendre, voir ce que tu peux, ce que tu ne peux pas, donne. Il ne faut pas prendre de l'eau en disant, bon, j'attends peut-être que dans un mois, je vais encore avoir soif. Le puits est là, il n'est pas prêt de se tarir. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne savent pas que le puits ne peut pas se tarir. Ils prennent Dieu et la vie pour un seau d'eau, alors que c'est un puits intarissable. Donc, ils ont peur que s'ils servent trop vite, ils vont revenir à un moment pour prendre, il n'y aura plus d'eau dans le seau. Dieu n'est pas un seau, c'est un puits. Si vous comprenez que Dieu est un puits, vous n'aurez pas peur. David, je crois, dit, Seigneur, bénis-moi pour que je sois une source de bénédiction. Beaucoup de gens ne sont pas bénis parce qu'ils ne sont pas prêts promptement à une source de bénédiction. Vous devez arrêter d'essayer de thésauriser l'argent, d'arrêter l'argent, de garder l'argent. Vous devez utiliser l'argent pour faire l'œuvre de Dieu, pour faire du bien aux gens, pour rendre les gens heureux. Si vous faites ça, l'argent passera dans votre main.
Nous allons prier, nous continuons demain.
Excellent Père de gloire, je veux te dire merci Seigneur. Merci Seigneur parce qu'une fois encore tu as été là. C'est vrai Seigneur que j'étais très fatigué. Je te remercie parce que j'ai roulé toute la journée hier, j'ai roulé toute la journée lundi, j'ai roulé toute la journée aujourd'hui. Mais tu m'as permis de sortir de ce long voyage et d'avoir encore la force d'enseigner ta parole sans m'y être préparé. Je te remercie Seigneur. Merci Seigneur parce qu'éternellement fidèle, tu es toujours là. Chaque fois que nous avons le temps de venir à tes pieds, tu es toujours là. Tu réponds toujours avec autant de merveille, autant de brio, autant de célérité. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait dans nos cœurs respectifs aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ce que tu as donné à chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ceux et celles que tu as édifiés. Qu'il te plaise, Seigneur, de faire de ce jour un nouveau départ, une nouvelle naissance pour nous en matière d'acquisition de la sagesse. Qu'il te plaise, Seigneur, au nom de Christ Jésus, de briser tous les liens qui nous lisent encore à ces raisonnements qui s'élèvent contre ta connaissance, à cette sagesse païenne, à cette intelligence, à cette théorie vile qui nous empêche d'ouvrir les yeux, de voir que tu es Seigneur. Seigneur, fais-nous la grâce de revenir à la vérité. Enlève les écailles de nos yeux. Donne-nous de voir la vérité. De voir la vérité. Donne à chacun de nous la force de rejeter toutes ces vérités qui ont pour définition d'aller à gauche, à droite et partout à la fois. Oui, Seigneur, qu'il te plaise de donner à chacun de ceux qui sont ici la grâce de ne plus être jamais l'otage des thèses, antithèses et synthèses. Donne-nous la grâce, Seigneur, de rechercher la vérité, de venir à tes pieds pour apprendre la vérité. Donne-nous d'écouter la vérité, de comprendre la vérité, de mettre en application la vérité, de réussir dans tout ce que nous ferons au nom de Christ Jésus. Oui, Seigneur, je te prie, dans notre pays, le Bénin, en Afrique en général et dans le monde, de faire échouer encore plus que tu le fais aujourd'hui, toutes ces théories païennes, tous ces modèles sataniques qui sont en train de nous embrigader, toutes ces théories qui donnent l'impression aux gens inavertis qu'elles sont brillantes. Qu'il te plaise, Seigneur, de continuer de les confondre, de les mettre à nu, afin que ceux qui sont de bonne foi réalisent que tu es le seul Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu souffles un vent de ta sagesse, un vent de ta crainte, un vent de ton intelligence. Un vent de tes bénédictions, un vent de ta faveur sur notre pays, le Bénin. Oui, Seigneur, nous avons plus que jamais besoin de toi dans ce pays. Non pas seulement en chantant, en dansant, mais donne à chacun de nous de s'intéresser à ce pays, d'intercéder pour ce pays, de prier pour ce pays, Seigneur. Oui, donne-nous la force, chacun, d'être des vecteurs de paix. Donne-nous la force, Seigneur, d'être des témoins de Jésus. Donne-nous la force, Seigneur, d'être des gens qui donnent envie. Que par les temps difficiles, on puisse dire en nous voyant, c'est différent pour vous, partagez avec nous le secret. Oui, Seigneur, fais de nous des sujets de réussite extraordinaire. Que quand le monde pleure, nous soyons en paix. Que quand le monde est triste, nous soyons en joie, Seigneur. Que quand le monde est malade, nous soyons guéris, source de guérison, Seigneur. Que quand le monde est pauvre, nous soyons prospérité. Que nous n'en prêtions plus les autres, mais que plutôt ce soit nous qui le prêtions. Oh Seigneur, fais de nous des témoins. Fais des membres du peuple de Jésus pour réussir une race à part, une race de chrétiens prospères, qui t'aiment, qui te servent, qui t'obéissent, qui sont humbles, mais qui portent des fruits. Oui, Seigneur, tu as dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation de tes vrais enfants. Donne-nous la grâce de cela, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu étais là. Merci Seigneur parce que tu bénis chacun dans ses affaires. Tu bénis chacun dans son travail. Tu connais le cœur de chacun de nous. Tu sais de quoi nous avons besoin, Seigneur. Dis seulement un mot, nous serons guéris. Fortifie-nous, éclaire-nous, instruis-nous. Guide-nous, Seigneur. Donne-nous d'avoir la grâce de l'intimité de ton Saint-Esprit. Prends le contrôle de nos pensées, de nos paroles, de nos actions et de toutes nos omissions, Seigneur. Nous voulons être tes esclaves. Merci Seigneur parce que tu protèges chacun de nous dans son retour. Tu veilles sur nous, tes anges nous accompagnent. Ils sont avec nous partout où nous sommes. Ils veillent sur notre vie. Il veille à ce que nous obéissions, Seigneur, que nous marchions dans tes voies et que rien ni personne, ni la mort, ni l'enfer, ni les anges, ni la domination, ni rien de tout ne vienne nous séparer de ton amour. Seigneur, nous te disons infiniment merci pour tout cela. Merci, Seigneur, parce que nous sommes encore unis demain, dans le même esprit, avec foi, pour t'écouter, pour apprendre, pour grandir. Fais de nouvelles choses encore demain dans notre vie et qu'il te plaise de garder ta faveur sur ce pays au nom de Christ Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu l'as déjà fait. Je te remercie aussi pour tout ce qui a été aux examens. Nous sommes réunis ici, nous t'avons prié. Nous avons prié entre autres de manière juste à édifier la foi des gens pour qu'à aucun examen cette année, ni au CP, ni au BPC, ni au bac, pas une seule goutte de pluie ne frappe un enfant qui va à l'examen. Tu l'as accompli, Seigneur, de manière extraordinaire. Je veux te dire publiquement merci, Seigneur. Ce n'était pas évident. Nous sommes en saison des pluies. Il pleut presque toujours aux examens. Nous avons osé élever la voix pour dire qu'il ne pleuvra cette année sur aucun des membres de ce club en allant à l'examen. Tu l'as fait, Seigneur. Tu l'as fait 3 sur 3. Merci, Seigneur. Je te rends témoigne pour cela. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous rappelles tous les jours que nous avons le pouvoir de nous tenir la brèche. Tu as dit que tu as voulu détruire des peuples. Il t'aurait suffi de trouver une seule personne qui élève la voix. Et tu n'as trouvé personne. Qu'il te plaise de toujours trouver au club de Jésus pour réussir des gens qui élèvent la voix pour ce pays, des gens qui élèvent la voix pour des gens que tu veux sauver. Fais de nous des intercesseurs. Seigneur, te remercions. Que ton nom soit béni au nom de Christ Jésus. Amen.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huigban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe ?